They got the mustard.
Hey, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est...
Pourquoi Kaamelott, c'est génial. Et oui, un hors-série spécial aujourd'hui que j'ai la joie de conduire. Donc un hors-série spécial Kaamelott. Et cette fois, ça sera moi le chef. Donc
c'est bon, ça.
Détendez-vous, les gars. Pour m'accompagner ce soir, j'annonce du département de la Sarthe à Pandora en passant par Tatooine et dispense la bonne parole de Buffy à bord du Serenity. J'ai nommé le célèbre Sarthman.
Oui, je vais mettre les trompettes à chaque fois. À chaque fois que je vais mettre les trompettes le plus
parce
souvent
que maintenant,
possible.
Tu peux mettre des sauts en live.
C'est ça. Donc je vais m'amuser à mettre des trompettes assez régulièrement. Salut Ryle, Clémentus.
Clément, et oui, ah oui à tous.
Ah oui à tous.
J'ai également, pour m'accompagner ce soir, il fait partie des disparus à Twin Peaks dans l'engrenage des revenants. Tu m'as compris? le soprano des séries, j'ai nommé Ryleus.
Ah oui, mais bien sûr.
Attention, Ryleus. Trompette.
Ah oui, ça change bien.
Waouh.
Voilà, trompette.
Bon bref, Ryle,
c'est donc un épisode spécial Kaamelott, c'est quand même incroyable.
Voilà.
J'ai dit ah oui. Hein.
T'as dit ah oui.
Ah oui, ah oui à tous.
Ah oui.
Le podcast existe en MP3 sur iTunes, Podload, Podcast Addict et plein d'autres sites, et également en vidéo sur YouTube. Donc notre site, c'est pourquoibuffycestgenial.wordpress.com, et pour nous envoyer des petits mails, c'est pourquoibuffycestgenial@gmail.com. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire en fait.
C'est tout pareil que d'habitude, et ouais. Ça c'est chouette.
Sauf que là c'est Kaamelott.
Sauf que là c'est un hors-série Kaamelott, tout à fait.
Est-ce qu'on se mettrait pas un petit extrait de Kaamelott? Allez, parce vas-y. Que je peux allez, lancer bon, des
filles.
C'est parti drôle.
Mais qu'est-ce que vous bricolez? Ça fait une heure que je vous fais sonner. Vous avez pas entendu la corne?
Si, mais je peux pas venir.
Mais pourquoi?
Parce que j'ai un petit peu picolé.
Quoi? Les vandales seront là dans un quart d'heure.
Bah ça va, je picole pas souvent.
C'est vrai qu'il picole pas souvent, Lancelot.
Le pauvre Lancelot. Voilà, eh bien écoute, on va enchaîner tout de suite. Après tout, on est à la maison, hein, c'est pareil, sauf que cette fois on parle de Kaamelott. Donc on va commencer par la rubrique des gros bisous.
Ah, des gros bisous!
Qui a un gros bisou, les gars?
Il n'y a pas de jingle gros bisous là.
Il n'y a pas de jingle.
Non, on n'a pas le temps.
Non, on n'a pas le temps.
Là, c'est en live, tant pis, voilà. Des gros bisous, quelqu'un, non?
Ah oui, bah oui, oui, j'ai oublié mon.
Alors, gros bisous en latin se dit Aquilo Magnus.
Alors, Aquilo Magnus à Clémentus qui m'a fait découvrir Kaamelott.
Ça fait plaisir. Pour une fois, j'en reçois un gros bisou.
Aquilo Magnus.
Parce que personne ne te fait des gros bisous, Clémentus.
Non, je crois pas que Clément ait eu beaucoup de gros bisous.
C'est grâce à toi que je regarde.
Alors, sur ce.
Il n'y a que moi qui ai des gros bisous, d'accord.
Non, bah du coup, moi j'en ai un pour mon cousin, en fait, pour changer un peu. Non, mon cousin qui m'a régalé ce week-end, voilà.
Gros bisous.
Il nous a dit qu'il nous aimait tous avant de vomir, ça m'a touché.
Gros bisous, alors Aquilo Magnus.
Aquilo Magnus à mon cousin.
On parle de quoi aujourd'hui?
Nous allons parler de l'épisode 1 de la saison 6, enfin plutôt même du livre 6, il faudrait dire, donc il s'appelle Milus, attends,
Miles.
Je l'ai. Miles Ignotus.
Et non pas Incognito.
Ce qui se traduit par le soldat inconnu, hein, vous l'aurez tous compris évidemment, parce qu'on parle tous latin, bien évidemment.
Bien
cet épisode marque les débuts du jeune Arthur, qui s'appelle donc encore Arthurus.
Moi j'ai fait latin au collège, ça intéresse des gens ou pas?
Je suis sûr oui, il y a sans doute quelqu'un qui a fait du latin.
Pour la compréhension de l'épisode, c'est très important.
Ben voilà, si vous avez des questions, j'ai fait latin en quatrième.
D'accord.
Demandez-moi.
On te demandera.
Ouais, carrément. par contre, tu m'as pas repris sur le fait que j'ai dit Arthurus et pas Arthurus. Alors du coup, j'ai des doutes sur tes capacités en latin. Quand même.
Je vous rappelle que c'était en quatrième.
Ah oui, c'est vrai. Et tu es très vieux. Alors donc, Arthurus, simple troufion dans la milice urbaine à Rome. Tout ça se base bien évidemment avant qu'il accède à son destin troublé de roi de l'ogre. Épisode bien évidemment réalisé par Alexandre Astier. Il a composé la musique, réalisé le montage, il interprète le rôle principal. Voilà, il est connu pour être multifonction. Je vais pas parler de la diffusion télé de cette saison ni de la saison 5 parce que je l'ai pas regardé celle du livre 6 en fait. Enfin, je l'ai pas regardé.
Tu n'as pas regardé l'épisode.
Voilà, je vais le découvrir ce soir.
C'est osé quand même.
C'est couillu.
Un commentaire audio d'un épisode qu'on n'a pas vu, c'est osé. C'est culotté.
Et je sais bien. Non mais voilà, diffusion télé, voilà, c'est ce que je voulais préciser livres 5 et 6 parce que le format adopté par la chaîne était différent de celui que voulait Alexandre Astier au départ.
Pas pour le livre 6 quoi.
Pas pour le livre 6, pardon. Sur le livre, non, le livre, sur livre 5, c'était découpé ouais, comme, en mode
comme, avant,
comme les camelots d'avant, quoi, voilà, en format court. Et lui avait écrit, pensé le truc comme des épisodes de 40 minutes. Et c'est ce que j'ai voulu découvrir pour le livre 6, même si, bon, effectivement, celui-ci a été diffusé en mode normal, on va dire.
En fait, c'est ça, Kaamelott, ça a commencé comme une shortcom avec donc des épisodes de,
on n'a pas présenté,
de 3 minutes 50, de 3 minutes et demie, 3 minutes 30, je crois, qui était diffusé par paquet 2, donc ça faisait une tranche de 7 minutes. Et donc ça a commencé comme ça, donc c'était des petits sketchs. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'émission, des diffusions, lui il a voulu partir vers un format beaucoup plus feuilletonnant,
ouais,
avec des épisodes plus longs. Et c'est effectivement, comme tu dis, c'est en livre 5, il a écrit des épisodes de 3 quarts d'heure. Sauf qu'ils ont été charcutés
en
épisode de 7 minutes. Ils ont été diffusés en épisode de 7 minutes. C'est ça, en fait.
Et voilà. C'est ça,
sur le livre 6, du coup, une diffusion comme il le voulait.
Exactement, en prime time. C'était par 2 épisodes de 3 quarts d'heure. Je crois qu'ils ont été diffusés cette saison 6. Mais oui, c'est fascinant. Une série qui évolue aussi dans son fond et dans sa forme. C'est une série qui a énormément changé au fur et à mesure de.
Du premier épisode au dernier, t'as une évolution de fou quand même qui s'est
carrément.
Fait.
Combien d'épisodes d'ailleurs?
469 épisodes au total, figure-toi. Voilà, étalé sur 6 saisons. Sur 6 livres, en fait, il faut dire. Oui, c'est un peu plus compliqué parce que voilà,
c'est
noté
comme. Différence, livre,
bah, je pense que c'est.
Parce que,
à mon avis, c'est une façon. C'est une façon de se différencier et de raccorder avec son propos, quoi. Voilà, là, Kaamelott, livre 1, livre 2, et non pas saison 1, saison 2. Mais.
Là, on pourrait aussi parler du fait que Clément Tuss, tu as choisi le livre 6.
Oui, tout à fait.
Et pas le livre 1, par exemple.
Et ben, je me suis creusé la cervelle pendant un moment pour savoir, franchement, quel était le meilleur choix.
C'est vrai qu'un podcast de
5 minutes,
de 3 minutes, ça aurait été osé.
Je pensais qu'on aurait fait des sessions de 10 épisodes ou je sais pas.
Ouais, ça aurait pu être comme ça. Ouais.
Voilà, mais comme ça va, justement, le rythme du montage va vite. Je me suis dit qu'on aurait moins le temps de poser des choses et tout, donc préférer choisir des épisodes.
Ça repose vachement sur le dialogue en plus, les premières.
Bien sûr,
les 4 premiers.
Bah, complètement. Chant contre chant, dialogue, direction d'acteur et des dialogues.
Ça n'a plus rien à voir.
Là, c'est plus rien à voir. Il y a une approche carrément cinéma qui se crée. D'ailleurs, le chef Hop, il dit dans le making-of, on le voit, il est désespéré. Enfin, désespéré, gentiment désespéré, en regardant la caméra du making-of, en disant mais en fait, on fait un film, quoi, les mecs, faut arrêter. Donc,
ils ont pas autant de budget que sur un film, quand même.
Bah non, mais.
On va voir, il y a des plans.
On va en parler, effectivement, on va pas grignoter Grignotus sur le conductus.
Est-ce que ça serait pas le moment de se balancer un petit extrait audio?
Carrément.
Allez, attention, c'est parti, ça parle de tartes et de petits-enfants.
Vous dites rien.
On pourrait pouvoir.
Non, le fruit est bon, hein.
C'est pas la peine de faire des rondes jambes, si c'est pas bon, vous avez qu'à le dire.
C'est pas bon.
Merci bien.
Vous posez la question.
Eh ben, je la pose pas à vous.
La pâte est probablement un peu sèche.
Probablement, oui. Ça doit jouer.
J'ai envie de faire des tartes, voilà. Vous n'allez pas m'obliger à me justifier.
Ah ben non, tant que vous nous obligez pas à les manger.
J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement des petits-enfants, il n'y en a pas. Ils arrivent jamais. J'attends, rien.
Si vous les accueillez avec ça, ils sont pas prêts d'arriver. Hein.
On aime toujours les tartes de soi, mamie.
Exactement, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy. C'est dans les gènes, ça.
Quoi?
Mais oui, mon petit père, faudra bien vous y coller. À moins que vous préfériez vous taper les tartes.
C'est dingue cette histoire. C'est pas parce que vous faites des tartes pour des petits-enfants qui n'existent pas que je dois les emmener à la pêche, non?
Le sommaire. Y a un jingle, non?
Mais non, il n'y a pas de jingle.
Il y a des extraits, alors, je me fais chier à vous passer des extraits, ils veulent des jingles, quoi.
Ah bah écoute, carrément. On a pris goût, Lux. Allez, c'est parti, Raelius.
Jingle?
Ah, mais, jingle, justement, il n'y en a pas.
Je suis à deux doigts de quitter la pièce, faites attention.
Là, on va parler de la quête du héros, bien sûr. Ça, c'est un peu notre sacerdoce, hein, Clémentus. On va aussi reparler de la remise en question de l'univers Kaamelott, en fait, parce que cette saison, ça n'a absolument rien à voir.
Tout à fait.
Et en même temps, tout à voir avec ce qui s'est passé avant. On va parler aussi des plans et des dialogues à indices, hein, qui vont vous parler justement du destin de Arthur.
Qui sont disséminés dans tout l'épisode.
Voilà, il y a plein d'indices, puis tout au long du livre 6. On va parler aussi de la direction d'acteur de Alexandre Astier. Et on va parler aussi du gros truc au niveau production de la série pour ce livre 6, c'est que c'est tourné à Cinecittà.
Voilà, les fameux décors.
Vous connaissez évidemment Cinecittà.
En tout cas, maintenant vous connaîtrez.
Certainement,
oui,
tu as un gros dossier.
Tu as un gros dossier sur Cinecittà.
Tu maîtrises la fonction copier-coller, quoi.
C'est faux.
T'es con, il a fait des recherches.
Je suis allé sur place.
Ah, excuse-moi. C'est pour ça que t'étais pas là la semaine dernière.
J'ai fait un vrai travail de journaliste.
Tu nous as pas dit où tu partais, mais oui, d'accord.
Je suis allé sur place, j'ai enquêté.
Ok, voilà.
Je vous en parlerai.
Voilà, alors. Un petit pitus.
Un petit pitus.
Un pitus.
Oui, un petit pitus.
Ah oui.
Alors, nous sommes 15 ans avant Kaamelott, le Kaamelott que nous connaissons. Nous découvrons la vie d'Arthurus, qui est donc un jeune milicien à Rome.
Avec les Romains.
Où il y a des Romains, bien sûr. Et en parallèle de ça, on nous dévoile les intrigues politiques qui se mettent en place entre plusieurs sénateurs qui vont avoir un impact sur la vie d'Arthur. Et ils se sont fâchés, ces sénateurs, au sujet d'un truc très important qui est la Bretagne.
Ah,
la Bretagne, c'est important.
La Bretagne.
Depuis
la Bretagne.
Quand c'est important la Bretagne?
C'est hyper important.
Il y a que des Bretons là-bas.
D'ailleurs, on parle d'une légende.
Puis il pleut.
L'épée des rois qui serait dans un rocher. Et celui qui arriverait à enlever cette épée deviendrait le roi de Bretagne. Et tout part de là, en fait. Donc on va le découvrir.
Exactement.
Soir.
On va découvrir ça dans l'épisode que nous allons
voir. C'est donc
voir.
Une saison préquelle. Est-ce qu'on l'a dit, ça?
Non, on l'a pas vraiment dit. On l'a pas dit du
Peut-être
tout.
Peut-être on peut le dire.
On survole, on tourne autour du pot, mais on...
Voilà ça, parce que la Kaamelott, c'est donc ça raconte l'histoire du roi Arthur dans son château à Kaamelott avec ses chevaliers, la quête du Graal, ses histoires compliquées avec sa meuf
Guenièvre
et Lancelot qui est amoureux de Guenièvre, tout ça. Et donc ça raconte toutes ces choses-là. Et là, arrivé en fin de saison 5, il y a un énorme cliffhanger. Et qu'est-ce qui se passe? Saison 6.
Flashback.
Et
le salaud.
Saison préquelle qui nous raconte la jeunesse du jeune Arthur. Et donc tout ce qui se passe avant Kaamelott, avant le royaume de Bretagne. Voilà. Tout ça. C'est ça. Et, bah, c'est juste ça qu'il fallait dire ou...
Oui, non, c'est bon, rien à ajouter. Bah, un préquel, on va pas après.
On a pas dit que c'était une comédie.
Une comédie baignée dans un univers d'heroic fantasy.
Oui,
pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est intéressant de le préciser.
L'idée à la base, c'est d'avoir pris les légendes arthuriennes et d'avoir joué sur les anachronismes, notamment dans les dialogues et dans les situations, pour faire de l'humour. C'est une série humoristique à la base, une série de sketchs. Et bien sûr, après, c'est parti vers plus dans l'heroic fantasy et le drame vers la fin. Mais,
Bah, il est vraiment pas drôle du tout. Là. Enfin, là, on va déjà le voir, ça a commencé, c'est pas marrant.
Voilà, c'est ce qu'on disait au début, en fait. C'est une série qui évolue. Énormément. Et donc même dans son genre, qui passe de comédie au drame en l'espace de 6 saisons, c'est fascinant.
D'ailleurs, tu disais la dernière fois au dernier podcast
la prise précédente, tu veux dire
dernier podcast qui n'a pas marché techniquement.
Ah, on a fait un autre podcast Kaamelott, c'est ça.
Je
c'est
crois, ça oui. Et puis on s'est planté d'accord. comme des grosses buses. Non, mais tu disais justement, un truc intéressant là-dessus, qu'il était fier lui d'apporter sa pierre à l'édifice du mythe arthurien, finalement, en proposant sa version du conte de la légende arthurienne, du coup.
Alors oui, ça c'est intéressant, c'est que pour beaucoup de gens et donc pour Alexandre Astier, les légendes arthuriennes. C'est quelque chose de pas fini, de pas bouclé. Si vous êtes pas au courant, en fait, les légendes arthuriennes, c'est pas un bouquin écrit à un moment précis. C'est un empilement.
Chaque auteur apporte sa pierre à l'édifice.
C'est une succession d'histoires écrites par plusieurs personnes sur plusieurs années, plusieurs 16 siècles même. Le plus connu, c'est Chrétien de Troyes.
Voilà, il fait pas une adaptation de Chrétien de Troyes. Il fait sa version.
Et c'est lui qui sa vision, c'est que chaque nouvelle adaptation des légendes arthuriennes est une nouvelle couche de la légende arthurienne, comme les Monty Python ont fait leur sacré Graal, comme lui apporte sa pierre à l'édifice en créant entre autres de nouveaux personnages comme Dame Séti, c'est ça que
Célie.
C'est Célie. Il considère que c'est un personnage qu'il crée et que du coup dans peut-être 50, 100 ans, on dira qu'elle fait partie totalement des légendes arthuriennes.
Bah, je rebondis sur la métaphore. Enfin, c'est Alexandre Astier plutôt qui rebondit sur la métaphore alimentaire en allant plus loin en disant que c'est un chewing-gum dans lequel tout le monde peut mordre, la légende arthurienne.
Ouais, c'est beaucoup plus clair que ce que je viens de dire.
Voilà, ça permet de conclure. Voilà, du coup, avant de commencer, je voudrais faire un big up au site onenagro.org. Déjà, le titre est rigolo. Enfin, pour les fans hardcore de Kaamelott, évidemment, c'est une évidence.
C'est pas faux.
Et également le site Astier & Co. Tout bon fan de Kaamelott doit évidemment connaître et consulter régulièrement. Et voilà, la preuve que j'épluche pas vraiment beaucoup ces sites-là, surtout en préparation de ce podcast, parce que pour le coup, je tenais à faire ma propre analyse pour ce podcast et pas pomper des infos que j'aurais glanées, tu vois, au fur et à mesure de mes visites sur ces sites. Par contre, je les recommande vraiment pour ceux qui veulent en savoir plus sur la série et sur l'univers d'Astier en général. Ces deux sites, parce qu'ils sont évidemment très bien faits. Donc voilà, gros bisous à vous. N'hésitez pas d'ailleurs à nous pourrir rire si on dit de la merde ou si on va pas assez loin dans l'analyse ou tu vois ou si
enfin y a surtout un truc, Clément hein.
Bon bah voilà bah, pourrissez-moi n'hésitez pas encore une fois je vous le dis j'ai voulu faire ma propre analyse du truc. Ok bah non mais on va commencer tout de suite alors bah, vous connaissez le principe
enfin Top Magneto.
Top Magneto.
Latin,
alors, sais-tu comment on dit 3-2-1 en latin, Clémentus?
Non, j'ai pas révisé, désolé.
Alors, j'ai fait des recherches. Hein. Je vous rappelle que j'ai fait latin en quatrième.
Ah oui, c'est vrai. Il y a des restes.
C'est écrit là, ça va être à toi de faire le décompte.
Ah oui. On l'avait pas dit. Ah oui. Alors, 13, duo. Comme dans Indiana Jones. Il dit ça dans Indiana Jones. Non, en grec, il le dit. Compte jusqu'à.
En grec.
Oui, en alors, grec. Pardon, allez.
Il le dit en plus, c'est, pas, c'est en grec, c'est pas.
Ouais, allez, on reprend. Alors, tres, duo, unus.
Bim!
C'est pas une vanne le dernier? Ok. On enchaîne. Alors, ça commence. L'épisode commence. La série commence par une scène de cul. Donc, c'est assez étonnant. C'est même culotté, on pourrait dire. En off, on entend un mec dire Arthurus, Arthurus. Donc, ça nous indique tout de suite que nous sommes au temps de la jeunesse d'Arthur à Rome. Et en ce temps, notre bon roi Arthur aime déjà batifoler avec les demoiselles. Donc, ici, Lucia. Lucia, pardon, jouée par Marion Crespo.
Salut Marion.
Il est interrompu par Bruno Salomon, on le voit s'agiter derrière, mais... qui joue Caius. Et détail amusant, Caius était le premier Romain à apparaître dans la série Camelot, dans le livre 1. Il était déjà là.
Là, on n'est pas du tout dans du Camelot normal, on est derrière une grille, on voit pas ce qui se passe, on est dans le dos d'Arthur. Et en plus, on comprend pas, il nous parle de trucs dont on voit pas, c'est vraiment. On découvre en même temps que...
Oui, le spectateur
On est plongé dans le truc.
On va être très, très déboussolé. Hein.
C'est pour ça qu'on peut peut-être commencer Kaamelott par ça, aussi, finalement. Parce qu'on est un fan de Kaamelott normal et au même niveau.
Quoi. Là, je me demande s'il n'y avait pas une coupe, là, parce que...
Oui, ça va être construit. C'est un faux plan séquence, toute cette scène. Il y a des fausses coupes.
Mais ça, elle passe. Elle passe très, très bien. Oui, donc, on suit justement ce long plan séquence qui continue avec un Arthur de dos dont on n'a toujours pas vu le visage, faut bien le préciser. Qui arrive donc au milieu d'une orgie apparemment comme les Romains savaient les faire.
Voilà, ça baisse plus trop là.
On découvre ça rigole un peu moins parce que voilà, là on le voit son pote s'est fait choper. Donc son arrestation a eu lieu en off dans le plan séquence on l'a pas vu. Il s'est fait choper par Glossia. Voilà, je profite de l'occasion pour faire un big up à cet acteur d'ailleurs qui s'appelle Jean-Marc l'avocat parce que je le trouve exceptionnel. On y reviendra un peu plus tard pourquoi. Ça manque un peu de coupe, plan de coupe, pardon, je trouve. Mais
C'est parce qu'on peut pas voir non plus les réactions, d'Arthur.
Bah après, c'est là un exercice aussi. C'est la volonté de commencer en séquence,
D'être
dans l'action, tout ça.
Du point de vue d'Arthur, vachement, on est dans son dos tout le temps. On n'a pas vu de face encore.
Ouais. Mais on comprend pas trop bien ce qui se passe, mais alors attends. C'est ça, voilà, on joue priorité au direct. Priorité au direct, on arrive sur ce long plan séquence quand même qui se termine là, ici. Où Arthurus contemple cette couronne. Et on a les infos, donc on le voit effectivement sans barbe.
Plan indice, c'est complètement
sa gueule juvénile. Et c'est un plan indice, effectivement, comme tu le dis, parce qu'il est en train de contempler une couronne. On est évidemment tous d'accord pour montrer qu'elle.
Même un gros indice.
Elle symbolise,
carrément symbolique.
Même si ça peut sembler être très.
Sera un peu plus subtil dans le reste.
Ouais, ça peut sembler être très déroutant et très même. On peut se poser des questions sur la pertinence de cette mise en scène au début et on comprend tout à la fin. On comprend pourquoi il regarde cette
couronne. Ouais, on comprend l'utilisation de cette couronne, ça c'est super.
À la fin, ouais. Non, mais c'est tout est fait pour mettre le spectateur vraiment dans le. Pour le perdre, quoi, pour qu'il sache pas, il retrouve pas ses petits, quoi. Et ça, c'est intéressant, ça t'oblige, même si tu connais la série, à vouloir rester pour comprendre ce qui se passe, parce que d'entrée, t'as perdu tous tes codes, quoi.
Je trouve que c'est brillant. Alors, on enchaîne sur
un flashback du flashback, hein. Le matin même.
Ouais. Ouais, ça on le sait pas encore, mais.
Si c'était écrit le matin même.
Ah, c'était écrit, pardon, excuse-moi. Donc on voit, Arthur qui se préoccupe, tu vois, du sort du clodo. Et ça nous montre tout de suite quand même cet intérêt qu'a Arthur pour les faibles,
pour les clodos,
parce que ça deviendra sa ligne de conduite plus tard en tant que roi de Bretagne. Après techniquement, les axes sont un peu bordéliques. C'est vrai qu'on pige pas bien ce qui se passe.
Est-ce que ça pourrait être le seul bémol que moi j'adore ce que fait Alexandre Astier,
mais pas là.
il fait peut-être trop de choses tout seul, non? Parce qu'on sait qu'il écrit, il réalise, il joue, il monte, il fait la musique de tout ce qu'il fait.
Il tient la caméra, tu penses, là Non, il joue quand même, il peut pas.
Là,
il
y a un plan incroyable, mais voilà, est-ce qu'il pourrait pas déléguer certaines choses comme le montage, peut-être
ce plan grue, là.
Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas, c'est son choix. Nous voilà dans le camp romain, où on découvre donc un...
Zone brito-romaine.
La zone brito-romaine, exactement, plus exactement. Où on découvre un chef de guerre qui écrit donc ce qui semble être ses mémoires, ou en tout cas un texte. Et cette scène est très riche et finalement très peu de moyens, parce qu'elle joue juste sur la lumière qui est très froide. Ça nous montre
le ton de la voix aussi.
Un chef de guerre vidé, blasé.
C'est cool, la Bretagne.
Voilà, là, avec ce plan sur les yeux. Bon, je suis pas fan des surimpressions, là, plan sur plan, mais ses yeux, voilà, où on a un homme qui est un peu fatigué par les combats. Et le ton lourd, comme tu disais, Riley, de sa voix, ça rajoute de la mélancolie sur cette scène. Et même, surtout, sur les deux livres, les livres 5 et les livres 6, qui sont clairement... Bah, comme il dit Léo Dagan à un moment dans le livre 5, la rigolade, c'est terminé. Et là, on poursuit cette logique avec le livre 6. Où on découvre donc ce mec, on sait pas qui c'est encore.
Non, c'est bien, mais ça nous permet aussi de...
Alors, je crois que c'est Checky Cario.
Bien sûr, c'est Checky Cario.
L'acteur, c'est Checky Cario.
Ça permet, et c'est bien cette scène parce que ça contextualise l'histoire pour qu'on comprenne mieux après les enjeux politiques. Parce qu'après, il y a les sénateurs qui vont parler de la Bretagne, du mur d'Adrien. Dont,
on comprend les enjeux politiques.
Mais là, ça nous place les enjeux à l'avenir. Il nous dit qu'il y a un problème. Là, le chef de guerre qui est au mur d'Adrien, il en chie. Et c'est pour ça que après les politiciens vont nous en reparler. Ça nous permet aussi que en tant que spectateur, on se rende compte de ce qui se passe au niveau historique. Quoi.
Alors pardon, je te coupe tout de suite parce que là, on arrive sur du Kaamelott classique avec du chant contre chant. On revient dans une forme.
Et la césure est très nette, quoi. Ouais, autant dans la forme que dans le texte, que dans les répliques du mec. Ouais, c'est la
ça casse. On revient dans du Kaamelott normal, quoi.
Dans du classique. Donc, comme on disait, chant contre chant avec donc en face de lui, en face de Checky Cario, Spurius Cordius Frontinus. Je l'ai dit sans me gourer. Bravo. Joué par, attends, je l'avais...
Pascal Demelon,
qui a fait Braco après, je crois. Enfin, on l'a vu
dans Braco. Il a joué dans Braco, ouais, je crois. Il a fait dans
VDM aussi. Et dans Hérocorp. Bref. voilà, donc là, là, il fait une référence sur les collets qui ont été ramassés. Je pense que c'est une référence à un autre épisode avec Perceval où il va relever ses collets.
Il va faire un gros bide.
Donc, ça sera un peu le Perceval de cette saison 6, ce mec-là, alors.
En tout cas, c'est un atout comique évident d'ailleurs. Ouais. Il est très drôle. C'est le seul peut-être qui est vraiment drôle.
C'est génial.
Qui est juste purement drôle.
Voilà, après, enfin, voilà. Patrick Chenet, il y a du guest. Voilà. Il y a du guest.
On arrive au Sénat et
ça, c'est l'autre grosse intrigue. Premier
épisode, donc c'est normal
saison,
de planter. On définit les enjeux et l'intrigue politique. Et c'est d'ailleurs l'enjeu le plus important dans ce livre parce que c'est celle qui va déclencher. Enfin, c'est comme tu disais tout à l'heure. En fait, c'est l'intrigue politique qui va enclencher toute la saga carrément. Donc voilà, la mise en scène est très claire, c'est-à-dire qu'on nous oppose deux Sallustius, Patrick Chenet d'un côté, et les sénateurs querelleurs, Cupide et tout ce qu'on veut de l'autre côté, qui s'opposent à lui ouvertement en se balançant des fions, comme ils disent dans la série. Voilà, ce mec est la voix off de Big Lebowski. Voilà. Donc, et ce que j'aime bien aussi, c'est que chaque phrase définit le sénateur. C'est-à-dire, on comprend tout de suite que l'Orco qui vient de parler, voilà, il est plus futé, il est plus malin que tous.
Good boy.
Que Capitaine. L'Orco
City, bien sûr,
qui joue dans Kaamelott, bien sûr.
Voilà, donc, la première phrase définit le caractère, donne la couleur du personnage. Je trouve ça intéressant. Et Patrick Chenet, qui est incroyable. C'est pas encore très évident, mais on sent quand même qu'il tire un peu les ficelles de toute cette saison, en fait. Je trouve. C'est une scène très cool, une première scène très cool. Les enjeux sont clairs, l'intrigue commence.
Et là, c'est exactement, c'est drôle, c'est en même temps c'est inquiétant, c'est bizarre, et pas besoin de se prendre la tête. La mise en scène est très simple, mais le jeu est très carré, ouais, très bon. Le texte.
Patrick Chenet,
bon.
Il a ce détachement qui souvent les personnages de Alexandre Astier, je trouve. Ouais. Il est vraiment, il est très malin, il sait très bien ce qu'il est en train de faire, mais il prend les gens de haut, il est très, comment il dit, je veux bien croire que tout le monde vous prend pour une bande de connards.
Et puis non, mais ils enchaînent d'ailleurs, oui, mais pour passer pour des connards, on a besoin de personne,
Ah oui, et après, Lorco qui fait des blagues méta, là, vous me suivez, je pars sur une bonne phrase, et c'est ce qu'il va refaire après dans le.
Voilà, c'est un personnage qui est conscient,
dans les bains,
qu'il est
méchant, qu'il est du côté
qu'il est
des
un personnage
quoi.
Méchant et qui doit agir en tant que tel.
Ouais.
C'est assez brillant. Voilà, donc on va enchaîner sur la caserne. Tout à fait, avec Arthur et Manny, que l'on voit à droite, donc joué par Emmanuel Mérieux, qui est également graphiste et metteur en scène. Je fais un peu sa bio. Oui, un mec très sympa. Non, voilà, donc on se rend compte que ces deux personnages défient l'autorité. Ils sont jeunes, ils font des conneries, on vient d'apprendre donc ils font le mur régulièrement. Bref, on apprend aussi que Arthur, bon là j'anticipe un peu sur ce qu'il va dire plus tard, que Arthur a refusé de frapper Papinus, un collègue à lui, un faible. Donc on revient sur cette idée que Arturus refuse de s'attaquer aux faibles.
Le coup à la trachée.
Voilà, et là, c'est important le coup à la trachée.
Voilà.
On anticipe sur un truc qu'il avait dit. Voilà, je suis un peu perturbé par rapport au podcast qu'on a fait. C'est pas grave. Alors Manny semble plus tête brûlée.
Est-ce que tu veux dire qu'on a fait un autre podcast
mais maintenant qu'on l'a dit, on peut balancer.
Je comprends pas parce que les gens ils ont pas vu d'autres podcasts.
Oui, mais c'est vrai, mais on doit la vérité.
Ouais, chut.
On voit nettement que Arturus est quand même plus docile, c'est-à-dire qu'il respecte plus l'autorité. Voilà, quand
comparé à Manny,
qui est plus détaché et qui va, on va le voir, qui est carrément plus rebelle.
Et puis il est très différent de l'Arthur qu'on connaît dans les 5 saisons précédentes. C'est-à-dire qu'il est complètement soumis à l'autorité, il prend aucune initiative, il est jeune, et tout ça quoi.
Ouais, tout à fait.
C'est un Arthur complètement différent.
Et justement, en même temps, moi j'ai vu ça avec le côté rebelle, forcément il est là parce qu'il a fait une connerie, mais également qu'il respecte l'autorité parce que ça reste un soldat, il va devenir chef de guerre, il a des responsabilités militaires. Je pense que là pour le coup on a quand même les prémices du futur roi de Bretagne, à savoir d'équerre sur l'armée, tu vois, enfin sur tout ce qui est
martial. Mais il refuse de suivre certains ordres qu'il considère
voilà, mais oui, il fait sa propre ligne de conduite. Et regarde, il se remet au garde à vous direct alors que l'autre
il est pas contre ce système.
Il est quand même voilà. Il respecte cette hiérarchie, alors que l'autre, vous avez vu, il a enlevé sa chemise, il part torse nu, il en a rien à foutre. D'ailleurs, il laisse la chemise sur le bureau de son officier.
Chemise dégueulasse.
C'est très drôle. Et voilà. Donc parlons de cet acteur Michel Bernini qui joue donc Vibius Juventus Bestia. C'était difficile celui-là. Voilà. Pour en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour parler un peu de la direction de jeu, de la direction d'acteur de d'Astier, parce que là, bon. Il joue très juste.
Ouais, il est bien,
ce mec
il
joue sans doute très juste ailleurs, mais c'est intéressant de voir que certains acteurs qu'on a vus dans Kaamelott et puis ailleurs donnent un truc différent, qui offre quelque chose de.
Ah ouais, pourtant Astier dit qu'il écrit du sur mesure.
Eh ben ça doit jouer effectivement, ouais, parce que
certaines ils sont dans des mauvais rôles.
Ouais.
Genre ce Juventus là, il était meilleur dans un autre rôle.
Après il leur écrit aussi des choses. En raccord avec son univers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir ce ton détaché, sarcastique dans toutes les fictions qu'on fait.
Oui, bien sûr.
C'est ça. C'est que. Kaamelott, c'est Kaamelott. Ah,
c'est une
univers à part entière.
Alors, pardon, je vous coupe parce que là, il vient de parler du coup à la trachée qui est. Qui est anecdotique. Là, il paraît anecdotique et en fait, on verra à la fin de l'épisode qu'il est super important. Et ce que j'aime bien aussi, c'est comme il amène ça, voilà, le coup à la trachée, c'est comme un tacle en foot, tu vois, faut le répéter, faut le travailler, le coup à la trachée, alors qu'évidemment, on parle d'un geste qui peut tuer un homme, quoi. Enfin bon, ça, c'est l'armée, hein, c'est pas drôle.
Réfléchis trop, voilà. Soldat.
Alors ça, c'est très important. Cette phrase, elle arrive à pic. Elle était dans le conducteur.
Lire, c'est nul.
Voilà, tu réfléchis trop pour un soldat. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? On va juste, il va juste devenir roi de Bretagne, le rebelle. Donc c'est, voilà, c'est toujours sympa de voir un héros naître, en fait.
Surtout quand on le sait, enfin voilà. Ouais.
Mais oui, évidemment. Là, cette phrase, là, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Elle prend toute sa force. Scène au parloir. Très belle couleur sur ton écran, Sartman.
Merci.
Donc nous allons enchaîner sur ce dialogue, une écurie, sur ce dialogue entre Manilus et sa copine Lucinia, jouée par elle, je l'avais noté quelque part, pardon, on y reviendra tout à l'heure. Bref, sur ce dialogue entre deux jeunes Romains qui, apparemment, crèvent la dalle.
On voit pas beaucoup les décors de Shinichita, on en parle pas, il faut qu'on en parle aussi des décors. Ouais.
J'ai énormément de choses à dire sur
plan large quand même, parce qu'ils sont en hauteur et tout, ça peut être
là, on a vu un figurant. Mais non, parce que là, ce qui est important, c'est les barreaux entre les personnages.
Ouais, non, mais bien sûr,
ils sont enfermés chacun à leur côté. Là,
mais oui, non, mais.
Même la nana qui est à l'extérieur, elle est enfermée.
Ils sont obligés de grimper pour se voir, ça joue, ça fait partie du truc aussi.
Mais oui, mais je te dis, même la nana qui est à l'extérieur, elle est enfermée par enfermée, parce que même en étant dans la ville, à l'extérieur de la caserne, elle galère à bouffer, elle a deux autres se prostituer pour.
Oui, c'est vrai, c'est ce qu'elle dit.
C'est vraiment,
des deux côtés, c'est la prison.
Ils en chient tous les deux, quoi. Ouais. C'est vraiment pas facile.
Voilà, justement, c'est ça dont je voulais parler. Parce que les jeunes romains sont dans la galère. Et pendant ce temps, paf, raccord, on a les puissants du Sénat.
Ouais, c'est assis de la même façon.
Qui se prélassent. Oui, j'avais pas remarqué. Je viens de noter, c'est marrant.
Manilius et le sénateur sont assis de la même façon. C'est ça que tu dis, Raleigh.
Bah, oui, Manilius est posé de la même façon de l'écurie.
C'est brillant. Et donc voilà, les sénateurs se prélassent après cette querelle au Sénat. On est dans dans une intrigue de politique de la Rome antique, classique, mais c'est toujours intéressant avec des Romains en toge.
Oui, les sénateurs, ils se baladent, ils font rien, il faut que discuter.
On est dans du Kaamelott, voilà.
C'est cool.
Ils sont de mauvaise foi, ils s'engueulent, ça reste Kaamelott, voilà. Et donc j'enchaîne sur l'entrée de l'Orco. Ici que nous voyons.
Good boy.
J'étais sûr de l'Orco, parce que cette scène est pour moi la clé de voûte de toute la saga, enfin en tout cas démarre toute la saga, parce que l'Orco va informer Sallustius de l'existence de l'épée des rois, la légende dont tu parlais tout à l'heure, Raelius. Et c'est ça qui va enclencher toute
l'épopée de Kaamelott,
voilà, toute l'histoire d'Arthur, quoi. Donc cette scène est capitale. L'Orco semble jouer le rôle du trickster pour moi. Dites-moi si je me gourre sur cette analyse, parce que alors le trickster dans le voyage du héros décrit par Joseph Campbell, Sartman, tu nous as parlé plusieurs fois dans le podcast de
Tout à
de
fait.
Buffy, avec ce livre Le héros aux mille visages qu'on vous recommande évidemment chaudement.
Avec Brio.
Voilà.
Je connais pas.
Et dans le voilà parmi ces parmi les archétypes décrits par Joseph Campbell, il y a le trickster, qui est un génie maléfique, qui est décrit comme un diable farceur, tu vois, qui ment, qui triche, qui déstabilise le héros, mais il fait avancer l'histoire. Du coup, c'est exactement
comme
ce que
Gollum,
l'Orco, un peu comme Gollum, carrément comme Gollum.
D'accord. Oui, c'est souvent ça, le trickster. Il t'emmène vers des directions qui sont mauvaises, mais qui t'obligent à avancer, en fait. C'est ça le principe, généralement, du
voilà. Trickster. Voilà, et là pour le coup, l'Orco, avec son sourire, là, évidemment, il cherche un intérêt.
L'Orco,
c'est pas...
ça. Il voit son intérêt à lui, mais ça va faire avancer l'histoire.
Voilà, alors attendez, là on va faire top Magneto. Je voudrais revenir sur cette réplique qu'on va entendre tout de suite, c'est ma réplique préférée.
Là, il rit.
Je parle un peu comme un père, hein, mais j'aime bien le côté. Je viens donner un renseignement énigmatique et puis hop là, je fous le camp.
C'est dramatique. Il sourit, il est content, tu vois.
Non, mais là, c'est pareil,
et il repart, voilà. Il assume son truc.
Il est revenu s'asseoir pour sortir sa vanne. Et...
C'était tranchant, même dans la mise en scène. Au moment où il part, on trouvait ça bizarre, et il revient et tout. C'est fascinant, comme tu disais, c'est très méta. C'est le fait qu'il donne une information ultra importante et c'est pas mise en valeur par une mise en scène folle ou de la musique ou comme ça. C'est mis en valeur par
cette vanne, en fait.
Voilà, par l'humour, parce qu'il fait la force d'Astier et de son univers. C'est par l'humour qu'on hiérarchise les informations.
La dramaturgie n'est jamais enclavée par l'humour.
Là, un plan, c'est cool, là.
Ouais, là, dans la rue, oui.
Un plan très long.
Avant le plan dramatique de l'épisode, hein, qui arrive, là. Il me semble.
Parce qu'il y a un plan très sale qui arrive juste après.
Ça va être le moment.
Mais là,
de Chinchita,
ils sont dehors.
Ils bouffent comme dans Kaamelott, d'habitude.
Mais ils bouffent toujours, bien sûr. Il y a toujours un rapport à la bouffe, comme t'es en train de faire, d'ailleurs, elle est. Toi, tu peux prendre le podcast.
Il fait son chaînet. Mais ouais, ils sont en train de bouffer. Et en même temps, ils sont en train de faire un plan machiavélique, là, qu'il faut faire quelque chose, tout ça. Et ça bouge, ça le suit. Il y a de la figure derrière. C'est très, très, très bien, ce plan. Et après, on va tomber sur un plan dégueulasse, bim! Et ça, on ne comprend pas. Il y a la moitié du plan qui est pris par une épaule de Patrick Chenet. Là, on se demande.
On se tire de tourner à Chinichita, quoi.
Non, mais le truc, voilà, je pense que ce plan un peu, cache un peu la misère. Il n'y avait peut-être pas assez de figurants, j'en sais rien. Peut-être que le plan faisait un peu vide et du coup, bon, bah voilà, il y a l'épaule entière.
Moi, je suis persuadé qu'il avait prévu de le faire en un seul plan séquence et qu'il a dû faire une coupe pour on ne sait quelle raison et qu'il.
Il a rajouté ce plan-là.
Et il n'avait rien d'autre à mettre que ce plan dégueulasse.
En même temps, l'épaule est tellement présente que peut-être que c'est juste pour nous dire que c'est le Tusk domine le forum. Il a la main mise sur Rome.
Il domine tout le plan,
ouais.
Bon, ça peut être une aussi une explication.
Non, mais alors, ça manque de perspective. Parce que il est.
Oui, non, mais je fais qu'extrapoler, on n'en sait rien.
Non, mais c'est bien.
Enfin, voilà. Alors, du coup.
Priorité au direct,
nous voilà dans la caserne.
Et là, on se retrouve dans un épisode de Kaamelott classique.
Évidemment, voilà, on retourne dans du classique avec ce fameux champ contre champ. Et également, voilà, ce rapport à la hiérarchie et la mauvaise foi que cela entraîne. Pardon, parce que donc voilà, on disait Glossia qu'on a vu tout à l'heure et qui tout de suite parle à son subalterne comme à une merde, donc est le boss, mais par contre il s'écrase immédiatement devant Capito.
Ouais, c'est ça, ils ont les mêmes défauts que les personnages de Kaamelott que d'habitude, ils sont pareils, ils mangent, ils sont de mauvaise foi, ils mentent, ils assument pas devant leur chef. Sauf que c'est des nouveaux persos qu'on ne connaît pas du tout, quoi.
Voilà, mais on reste dans la même recette.
Ça c'est drôle. Ouais.
Le mot voilà registre, on revient sur ce mot, ce comique de répétition classique qui marche sans être lourd. C'est ça qui est pas mal. Et c'est souvent le cas dans les autres livres de Kaamelott. Il y a toujours ce comique de répétition, mais savamment dosé, parce qu'il en devient jamais lourd. Au contraire, le registre, voilà, on l'a tous intégré, ce
voilà,
mot.
Ils sont à la recherche
de ce fameux registre. Et on va revenir. Et voilà, donc ça nous permet de transiter vers cette scène, la scène 10 dans le couloir, où Manilius, voilà, donc là, l'intrigue se continue au niveau de Manilius, qui lui... rebelle, tête brûlée,
il veut aller à une soirée alors qu'il est déjà puni.
C'est clair, il va faire du cachot, mais lui. Il en a rien à foutre,
il veut se gaver avec sa copine et du coup il va essayer de soutirer des infos du pauvre naïf Caius. Et là, bim!
Du premier coup,
il nous parle de ce fameux registre. Et attends, regarde, il va revenir. Il a trouvé quoi? Le public a envie de dire, mais le registre, ça fait une heure qu'on le sait.
Ça fait 15
ans qu'ils
répètent tous le registre.
Voilà, il a trouvé quoi? Ben, le registre, tout simplement.
Connard.
Et on a envie de le traiter de connard, nous aussi, parce que.
On a dit que c'était bien écrit ou pas?
On n'a pas dit que c'était bien écrit. On a dit que c'était brillant, mais pas que c'était bien écrit. On va dire aussi que c'est également bien écrit.
C'est peut-être brillamment écrit.
C'est brillamment écrit. Donc on apprend que Manilius va aller dans cette fameuse
là,
villa.
Là, un plan
c'est Kaamelott
typique, pareil.
On retourne dans la... Ouais, les premiers
là,
épisodes dans le livre 1 autour
de
la table ronde.
Côte à côte, plan taille. Et d'ailleurs, c'était pareil, Manilius et Caius, il y a eu un rapport aussi.
Et ça, c'est bien de l'avoir gardé parce que ça déstabilise pas le spectateur qui est habitué à cette mise en scène.
Au milieu de ces gros épisodes de 3 quarts d'heure, il y a des petites scénettes qui sont clairement des...
Ça aurait pu être un épisode qui s'appelle le registre.
Exactement. On retrouve l'identité primaire de Kaamelott.
Là, je vais juste revenir encore une fois sur Glossia parce qu'il communique qu'en gueulant. C'est ça que j'aime bien. Il me fait penser à Homer Simpson en VO. Il dit Bart, il aboie en fait quand il appelle Bart. Et là, on retrouve ça un peu parce que dès qu'il y a un mec, allez, nous fais pas chier, il va, c'est son mode de communication, c'est gueuler quoi. Ça me fait marrer. D'ailleurs, est-ce que... Non, pardon, j'avais un truc à dire sur la scène d'après. Donc on va attendre.
On va parler de celle-là, c'est mieux de parler de celle-là.
Tout à fait, c'est pour ça, si vous avez des choses à rajouter, ça serait super bien.
Bon, tu veux meubler?
Non, mais moi ce que j'aime bien dans cette scène, c'est que à chaque fois, on a des personnages, on a ça dans tous les Kaamelott, c'est des personnages qui parlent de la même chose, mais qui n'ont pas du tout le même point de vue sur la chose en fait. Et c'est de
ils
ça
sont
que,
tous décalés entre
que
eux.
Découle le décalage, et donc généralement le conflit et l'humour. Et il y a ça exactement, les
c'est
deux.
Ça.
Les deux mecs veulent la même chose, se registrent, mais d'un côté, il y en a un qui dit bah, t'es con, le registre, tu sais où l'arranger. L'autre, il dit bah non, je sais pas et tout. Enfin, voilà.
Puis il y a un rapport avec la hiérarchie, parce que François Levental, hein, qui joue le sénateur, lui était le sous-fifre de Patrick Chenet tout à l'heure. Maintenant, c'est lui le chef.
C'est ça.
Donc il a pas du tout la même position dans cette scène. Et du coup, il paraît. C'est lui qui passe pour l'intellectuel à côté des autres, alors que dans la scène précédente, il passait pour le
chien de garde.
Pour le chien de garde.
Tout est une question à chaque fois de hiérarchie.
Exactement.
Et de point de vue. Des situations.
Pardon, je vous coupe les gars parce que là on vient de classique. Excusez-moi, je vous coupe parce que là on a parlé de, on vient d'apprendre l'existence d'un barbu Et en fait, c'est juste l'introduction de Merlin dans un autre barbu.
Ah bon.
Le personnage de Merlin l'enchanteur, le fameux Merlin l'enchanteur. Donc personnage capital de la légende arthurienne, évidemment,
qui est très drôle en calme.
Qui joue le rôle du mentor normalement, mais qui est un mentor qui est nul à chier évidemment dans Kaamelott. Donc c'est rigolo.
Pas nul, c'est un très bon druide.
Oui, je pense qu'on va découvrir des choses en fait dans les
surtout
films.
Surtout druide.
Avec Merlin. Je pense que Merlin n'a pas tout dit. Vivement que les films sortent.
D'ailleurs, il a créé aussi l'ennemi de Merlin, c'est une création de Hastie.
Elias, il n'existait pas lui.
Alors, parce que c'est un mix entre plus. Ouais, c'est exactement.
Ouais. Nous enchaînons sur la rue avec Lucina, pardon.
Et Manu Payet.
Introduction de Manu Payet.
Qui est cool dans cette.
Qui est rigolo. qui m'a fait penser tout de suite à Aladdin ou tu sais, un petit brigand. Enfin, c'est ce qu'il est d'ailleurs. Voilà, des rues.
Ouais, ça marche.
Et voilà, cette scène, malheureusement, j'ai pas grand chose à dire.
Bon, manque d'un plan large encore. Et il parle à la fenêtre et tout. Il n'y a pas de figure, il n'y a rien.
Oui, mais parce que là, on est dans une Kaamelott. Chaque personnage a son plan, on fait champ contre champ et voilà, ça suffit. Et
ça marche.
Ouais, mais on est du Kaamelott tourné à Cinecittà quand même.
Ouais, mais c'est pas.
Sauf que non, il.
C'est pas. C'est...
Bon, je sens que vous voulez des infos sur la Cinecittà. Qu'est-ce que c'est Cinecittà? Alors je vous explique. Ce sont des studios, un ensemble de studios qui se trouvent à quelques kilomètres de Rome. Donc en Italie, on est d'accord?
Ah, il y a des Romains, non?
Il y a des Romains.
Arrêtez avec ça.
Et non, il faut savoir que ça a été créé.
Ah non, mais là c'est priorité directe, c'est une scène méga importante.
Ouais, non, mais c'est dommage. C'est dommage. Désolé,
j'ai plein d'infos. Hein.
Manus, non, mais on en
fait une rubrique.
Je croyais qu'on allait en parler avant que ça démarre, en fait. Mais bon, c'est pas grave.
Priorité au direct.
On est dans le bureau de Sallustius. Où Arthur nous apparaît effectivement tout petit dans le cadre comparé à ces deux pontes de l'Empire. Il est quand même un peu déstabilisé, c'est normal. Il demande ce qu'il peut boire. Il demande du lait de chèvre. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est une référence à Astérix. Et comme on a bien vu que Astier était fan d'Astérix au point d'en co-réaliser le dernier film d'animation, à savoir Astérix et le domaine des dieux, qui est absolument génial. Je vous le recommande vivement.
Ouais, des références à Astérix dans Kaamelott, il y en a un milliard.
Et il y en a un paquet, bien avant. Get No et Repars, c'était évidemment ordre alphabétique, c'est automatique.
Quand le Merlin dit Monsieur Elias. C'est clairement quand Astérix et Obélix sont en train de se friter, ils passent leur temps à dire Monsieur.
Et même il parle dans la saison 5, Merlin, il parle il fait la différence entre le druide gaulois et le druide breton, et il dit que le druide gaulois est versé dans la potion.
Les pirates aussi.
Voilà, je pense qu'on a compris.
L'espèce de gang là qui détrousse les voyageurs dans la forêt.
Oui.
Dans la saison 5, c'est complètement
c'est les pirates
dans Astérix, quoi.
Effectivement. Donc on revient sur cette scène. Donc Arthur a cette coupe dans les mains, les gars, vous allez rebondir sur cette coupe parce que vous en avez parlé.
On la voit pas tout
à l'heure. Non, mais c'est pour après, effectivement,
là,
c'est pour après.
Tu te rates, dans la première version du podcast,
il parlait
après. Il boit le Graal cul sec après, quoi.
Ouais, c'était effectivement.
Bon, bref, surtout, ce qui est génial dans cette scène, c'est qu'il apparaît tout petit en short là dans ce grand siège, on dirait un gamin.
C'est juste, il le parle comme un enfant, et même dans sa façon de parler, c'est. Mais les autres gamins, tu les as vus faire tirer l'épée comme ça?
Et l'autre, il est au courant de rien. Il comprend pas, il a l'impression de se trouver face à quelqu'un de très important, ce qui est le cas.
Il parle encore du barbu, voilà.
Vraiment un gamin, quoi. Il joue vraiment un gamin, il joue pas mal.
Mais c'est trop bien. Ouais.
Il débarque dans cet univers. C'est brillant.
Je pense qu'il joue sur les. Peut-être pas sur ce plan, mais sur le plan large aussi. Il est vraiment minuscule en plan.
Alors revenons sur ce plan serré, justement, où il boit
le Graal, on est d'accord, Clontius.
Il boit
le Graal de Indiana Jones, peut-être, mais le Graal quand même.
La sainte coupe.
C'est encore un indice de son destin. Ce que tu veux nous dire.
C'est ce que je veux dire.
Effectivement.
Même si
moi, je voudrais revenir sur ce.
Concrètement, dans la vraie légende. Enfin, dans les.
Bah oui, bon, ça on verra. Mais par contre, juste revenir d'un point de vue de mise en scène sur la musique, les quelques notes qu'on a entendues ce qui semble être une mandoline, c'est pas une mandoline, mais les quelques notes qu'on a entendues sont le. Oui, j'ai pas trouvé ce que c'était comme instrument. Ce qui va être le thème d'Arthur.
Sur le chat, ils disent que c'est un accordéon.
Un thème délicat, mais également, je trouve, rempli de promesses. Donc ça raccorde évidemment parfaitement avec son personnage.
Là c'est fascinant, là faut que tu t'expliques ton analyse
pas dans
de
le
cette
registre,
scène. Enfin, dis-le, c'est fascinant ça.
On y vient sur le fait que ce personnage est en dehors des cases. Il est pas dans le registre.
Il est pas dans le registre.
C'est-à-dire qu'il est pas dans il est pas dans la norme.
Il est
comme
norme.
Comme tout héros
qui se respecte.
Qui se respecte. comme bah comme Buffy, comme Neo, comme Jean-Claude Duss,
comme John Locke.
Jean-Claude Duss.
Non voilà, comme voilà, les héros sont à part dans le ils sont à part.
Jean-Claude Duss, il n'y a pas de réservation à l'hôtel.
il est pas à la bonne gare.
Il y a une copine qui va le rejoindre.
Il a perdu sa valise.
Voilà, non mais attends, mais vous rigolez, mais voilà, le héros est un personnage à part.
Bon, prochain podcast, on fait sur Jean-Claude Duss.
Le héros ne s'intègre pas dans le monde normal comme Buffy, si tu vas pas me contredire, Sartman.
Et comme Jean-Claude Duss.
Dans la normalité.
C'était là, voilà. Cette toute petite scène où Lee s'interroge, putain, je suis pas dans l'enregistre, c'est Papinius qui va le dire, ah bah on s'en fout, tu sais pas qui c'est tes parents, ou je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il lui dit, mais voilà, ça c'est primordial cette scène, il se rend compte qu'il est pas comme les autres, quoi, il est
c'est
différent.
Là, en fait, c'est même passé, l'autre il lui dit, bah t'as qu'à rien dans l'enregistre. Il dit, bah oui, mais moi j'y suis pas dedans.
Scène géniale.
C'est là que je voulais faire un petit sondage rapidement.
Ah non, tu vas pas nous faire chier avec tes sondages là.
Même ici. Alors, mais on peut, non,
bon, je croyais que t'en faisais que sur Buffy. Bon, bah vas-y.
Ah, si tu m'autorises, on peut juste pour.
Allez, fais péter ton sondage.
Le fait que ce soit une saison flashback, vous auriez pas préféré avoir la suite de Kaamelott plutôt qu'une saison flashback?
C'est ton sondage là pour le coup.
Moi, c'est une sorte de sondage débat. Hein. Il faut lancer le débat, pour les commentaires de répondre à les commentaires de l'épisode, mais c'est vraiment pour.
C'est-à-dire qu'à l'époque, il imaginait peut-être faire la suite après.
Tout de suite après, direct. Ouais.
Je sais pas. On peut pas savoir.
C'est génial cette saison, mais c'est hyper frustrant quand même.
La frustration.
Ça fait 10 ans que ça s'est arrêté. Combien de temps?
Ce qu'ils veulent, il faut leur donner.
Ça s'est arrêté en 2009, 2010. C'est arrêté quand?
Je crois que c'était en 2005, saison 5, 2005, saison 6, un an plus tard, deux ans plus tard, un truc comme ça.
Non, mais 2010. Ah, bon. Bref, c'est quand même. Votre avis dans les commentaires, si vous en avez un.
En a.
Moi, je préfère la saison, le livre 6, quand même, absolu.
C'est ton livre préféré?
Je pense, ouais.
Moi, je crois que c'est 5.
Ça monte en puissance en plus toute cette saison-là.
Ouais, non, c'est vachement bien foutu, mais je crois que je préfère la 5.
Ah, il y a débat.
Voilà. Donc il y a débat. Donc voilà, là on a quand même un indice sur le
Ils ont été invités à la fête par Magnus.
Ouais, non, mais surtout ce que je voulais dire, c'est que ça reste des jeunes. Voilà, là
ils disent. Ouais, ils ont que des problématiques de jeunes, enfin d'ados.
On peut y aller sans un mec.
Buffy,
le mec, il est comment? Voilà, c'est un peu Buffy chez les Romains. Non, enfin surtout une bande de jeunes chez les Romains. Et c'est intéressant parce que ça n'a jamais été traité. Enfin, j'ai jamais vu ça dans un film ou une série où tu vois le point de vue des jeunes.
Il y a une série.
Sauf dans La Jeunesse d'Hercule, la série avec.
Il y a une série très drôle qui s'appelle Plebs, une sitcom anglaise.
Peplum.
Ouais, c'est exactement ça.
C'est cool.
C'est très con, c'est anglais. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Ils sont à la saison 3, je crois, en ce moment. Plebs, à voir. Voilà, et c'est des mecs dans des sandales à Rome et qui se prennent la tête sur des soirées sur
top puceau, priorité direct là. Papinius, un personnage faible.
Je
reviens dessus. Demande à Arthur s'il préfère se faire engueuler ou décider des trucs. Et là, du coup, ce court échange qui a eu lieu là dans la caserne, bah, peut-être que ça aidera Arthur à embrasser sa destinée de chef de guerre. Quoi. C'est quand même intéressant. C'est pas anodin, cette scène, évidemment. Et encore une fois, c'est Papinius, le mec qui voulait pas frapper au début, un faible, je reviens dessus, qui lui dit ça. Alors,
il y pense pas encore, mais tout se met en place.
Ouais, il y a plein d'indices.
Il se rend compte que ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire, le conduit vers quelque chose qui l'est pas. Il est pas fait pour être un milicien normal qui dit oui à tout. Ouais. Il se rend compte qu'il a envie de faire autre chose.
Mais ce qui est génial, c'est que dans la livre 5, on se demandait sinon s'il était pas non plus, s'il était pas fait pour être roi non plus, vu la fin de la livre 5. Ça remet vachement en question, et donc c'est son destin le force
carrément. C'est exactement ça.
Putain, c'est cool.
J'aime bien dans cette scène le fait qu'on voit ces deux jeunes. Voilà, ils veulent faire le mur comme on l'a tous fait.
Ça dure un peu parce qu'on sait qu'il va à la soirée là.
Oui, mais c'est pas grave. C'est intéressant de voir comment l'autre il se débrouille pour le faire venir. Et surtout le fait de découvrir. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on le voit si jeune avec ses problématiques de jeune, comme tu dis.
Et puis il est pas trop rebelle. Il hésite à aller à la soirée.
Et en plus, on revient sur cette idée, le fait que voilà, c'est pas son tempérament non plus d'aller de désobéir comme Manny le fait allègrement.
Ouais, parce que Manny,
ça va lui.
Hop, et là, on a un plan large, comme par hasard, quand il est avec la fenêtre de Lucie.
Ah ouais, t'as une théorie. Alors il est
bah, parce qu'il n'y a pas de figurant, du coup ça coûte beaucoup moins cher. Hein. Ils font une studio, c'est réglé.
Donc quoi. Le fait qu'on ait des plans largement la nuit dans la Cinecittà, c'est parce qu'il n'y a pas besoin
Je sais pas, il faut
s'enseigner
ça. Je sais pas si tu me donnais le prix à la journée de location de Cinecittà.
Bon, alors je n'ai pas le prix, mais bon, j'ai mené mon enquête.
Vas-y, mets ton enquête. Alors est-ce que tu es allé sur place?
Bah, je suis allé sur place, j'ai rencontré des gens. Donc j'ai pas le prix, mais si tu veux avoir les prix pour tourner à Cinecittà, je t'encourage d'appeler Christina Giupetti de ma part.
06
au 06 72 29 34 94 voilà, c'est, tu l'appelles de ma part, de la part de Sartanus, Christina, personne assez charmante.
Je l'appelle de la part de Sartanus.
Donc qui est responsable des productions internationales à la Cinecittà et pourra te renseigner. Bon, de
coup. Très bien, merci Sarfanus pour cette intervention.
C'est un plaisir.
C'était très étonnant. C'était très étonnant. Nous voilà dans les remparts, enfin dans les rues où ces petits jeunes veulent aller à une fête et
un couvre-feu.
Et ce que j'aime bien, voilà, alors le couvre-feu imposé par la société romaine de l'époque représente un peu le couvre-feu que nous on vivait quand on faisait le mur ou quand tu faisais le mur. Ça représente, t'étais toi-même sous la tutelle d'une espèce de puissance extérieure. Et qui étaient tes parents ou j'en sais rien, ou à l'internat ou quoi, et là pour le coup ça crédibilise complètement le truc. Ils sont effectivement
pardon mec.
Voilà, ils ont quand même des problèmes, pas du tout
mais non, parce que c'est drôle hein, on regarde
en même temps et
la problématique de genre, ah il est pas si dégueu que ça en fait
c'est drôle
c'est complètement décalé avec la situation romaine, enfin quand tu regardes un truc péplum comme ça tu t'entends pas ce genre de dialogue.
Effectivement.
C'est drôle.
Ah bah voilà, des figurants, qu'est-ce que tu nous...
Ah oui, pardon, excusez-moi.
Embêté. Voilà, il y a la milice qui...
Oui, bah alors Clémentus, pardon, tu disais.
Mais j'avais fini, en fait.
Ah pardon.
j'avais fini sur
Est-ce
le fait...
Est-ce qu'on peut remettre les choses un peu dans leur contexte historique, sachant que... Ah,
attends, il y a un plan gros.
Vas-y, oui.
Là, comment ça s'appelle, le couvre-feu a l'air de les emmerder. Enfin, il faut savoir qu'historiquement, le couvre-feu a été une très très bonne chose pour les Romains. Parce qu'il y avait énormément
d'abus. Il y avait beaucoup d'abus le soir.
De criminalité dans les rues de Rome la nuit, du fait que c'était pas éclairé, ils ne pouvaient pas.
Bah, voilà. Attends, tu regardes, il y a personne.
Et ces fameuses troupes, ces miliciens qui patrouillaient dans les rues, ils ont sécurisé énormément les rues de Rome. Et ça peut être vu comme une bonne chose en fait. Eux le voient d'un mauvais œil parce que ça les empêche de faire leur petit truc de jeune. Mais historiquement, c'était. C'était du bien, ça sécurisait la vie des Romains.
D'accord.
C'est tout ce que j'avais.
On va revenir sur cette scène tournée à la Steadicam. C'était plutôt bien foutu. Enfin, dans le making-of, on voit qu'ils ont galéré pour cette scène. C'est assez marrant. Parce que là, évidemment, ça a l'air très simple. Classique, efficace, cette scène. Et ils vont finir par arriver à cette fameuse villa à Konya. Où va se dérouler le cœur de cet épisode.
Donc là, tout est tourné à la Cinecittà. Donc est-ce que je peux peut-être vous parler?
Vas-y, raconte-nous, fais-nous l'historique de Cinecittà. T'as été sur place, il me semble.
Je suis allé sur place. J'ai fait une petite recherche.
Francesca.
Avec Christina.
Christina,
tu n'es pas du tout.
Je t'en prie. Non, Cinecittà. Donc je vous l'ai dit. J'avais commencé à vous le dire. Donc c'est des studios qui ont été un complexe de studios qui ont été construits dans les années 30. En fait, en gros, alors c'est marrant parce que ça vient d'une volonté politique pas très cool, mais bon, ça a conduit à quelque chose de génial. C'est Benito Mussolini, vous voyez qui c'est.
Oula,
Benito.
Oh. Qu'est-ce que tu... Oui.
Donc
oui,
pardon, mais
petite aventure.
Dictateur fasciste italien des années 30, un mec pas très cool, mais qui voyant que les Américains faisaient plein de films et inondaient les salles de cinéma italiennes de films de propagande pro-américaine, s'est dit moi je veux faire pareil. Donc il a pris la décision de créer un complexe de studios à quelques kilomètres de Rome. Et le 26 janvier 1936, c'est lui-même qui a posé la première pierre pour construire Cinecittà.
Et donc des immenses studios. Donc,
Des immenses studios. Et donc dans les années 30 et 40, jusqu'en 43, jusqu'à la fin de son règne, ont été produits des films de propagande fasciste. Mais après, vu que les bâtiments étaient là, ils ont servi à faire d'autres films. Et notamment, ils ont servi beaucoup pendant la grande vague des péplums des années 50 et 60. Des péplums souvent américains qui étaient tournés là-bas à Cinecittà. On peut aussi citer des réalisateurs comme Roberto Rossellini que, qu'on connaît, qui ont beaucoup tourné à la Cinecittà. Rossellini, il a même fait
Scorsese aussi.
Alors Scorsese beaucoup plus tard.
Mais oui, bien sûr. Je saute les étapes.
La série Rome.
Oui, complètement. Rome
qui a été tournée là-bas.
Oui, c'est clair.
Et donc,
les mêmes décors.
C'est exactement les mêmes choses.
Donc, bah oui. Enfin, si tu vois,
ils n'ont rien touché.
C'est pas. Enfin, oui, il y a quelques rues. Il y a le Forum, voilà. Et c'est clair qu'une fois que tu le connais, tu le repères dans tous les films et toutes les séries.
Là, ça dans Kaamelott, ça crédibilise le truc.
Excusez-moi, nous arrivons dans cette orgie.
Du jamais vu dans Kaamelott.
Il y a du sexe dans Kaamelott. Je voulais juste parler vite fait de la musique en fait, où on entend distinctement des guitares. Enfin, on entend déjà en off tout à l'heure quand c'était dans la rue.
C'est un acronyme.
Des guitares et des guitares électriques qui, bon voilà, en pleine romantique, ça fait un peu bizarre, mais comment dire, cet anachronisme.
Où ça baise.
Ça va baiser, ouais. Cet anachronisme est tellement assumé que bon bah il finit par passer. Enfin, à bout d'un moment, j'ai lâché là-dessus, je l'ai accepté. J'ai été évidemment surtout amusé par cet échange qu'on a entre Arthur et Lulia, où discute de faire du sexe comme d'aller boire un café en fait, tout simplement. Et ce qui nous rappelle qu'à Rome, sans doute à cette époque, ça devait se passer peut-être comme ça.
Mais la musique entre guillemets anachronique, c'est comme la série, ça en rapport, enfin parce qu'il parle un peu comme des personnages de maintenant.
Ça choque pas, c'est clair. Moi je m'attendais, c'est vrai, à voir un truc
musique
plus
classique, enfin oui.
Une musique classique de la Rome de cette époque.
Moi j'aime beaucoup ce rapport au sexe, parce que c'est quand donc tu connais la série, tu sais que le rapport qu'a Arthur avec le sexe, avec les femmes, donc il passe son temps à tringler toutes les boniches de son château, mais sans jamais toucher à sa femme. C'est quelqu'un qui est très porté sur le sexe, mais quand même, voilà. Et voilà, et donc de le voir jeune et de comprendre dans quoi il a été élevé, dans quoi il a découvert le sexe.
Bah, à Rome, ouais.
Tu dis que ça va être une saison très intéressante, là aussi, pour voir
son
rapport.
Ça définit aussi son rapport aux femmes
en
général.
Son rapport aux femmes.
Exactement.
Et oui, la rencontre qu'il va faire.
La rencontre qu'il va faire à la fin
de cet épisode de la saison.
Ouais.
C'est plein de choses.
Toute cette jeunesse à Rome va le définir en tant que.
On va avoir plein de réponses sur ce personnage d'Arthur et donc notamment sur son rapport au sexe. Mais là, priorité au direct.
Priorité au direct, nous sommes en Bretagne où l'ambiance est nettement moins sympa.
C'est pas vrai. Hein, ouais. Pour y aller souvent, c'est bien.
Au niveau orgie, on est comment
Et justement voilà, alors c'est le contraste qu'il y a entre ces deux ambiances, je trouve, marque fortement toute cette saison entre Rome. Cette Rome ensoleillée où Arthur vit ses dernières années d'insouciance finalement, et la triste réalité qui l'attend en Bretagne où Macrinus est en train de dépérir, comme on vient de le voir donc dans le plan d'avant. Et c'est d'autant plus intéressant parce que enfin ça nous permet de peut-être d'extrapoler en disant que accéder au rang de chef de guerre symboliserait peut-être le passage à l'âge adulte. On peut même aller plus loin en disant que le contraste entre Arthur et Macrinus. Qui est donc ici est très explicite.
Ouais. C'est Checky Cario.
Voilà. Que ce contraste en fait colore toute la saison. Enfin, ça donne le ton de toute cette saison. On verra après plus tard pourquoi. Quels enjeux. Enfin, quel point commun rapproche ces deux hommes.
Et justement, Macrinus, c'est ça comment il s'appelle.
Macrinus
ressemble beaucoup au Arthur de
maintenant, fin du livre 5.
Voilà,
abattu, désespéré,
complètement désespéré.
Les grosses cernes, le ton lourd et tout, c'est exactement pareil.
Qui aurait voulu tout changer, mais il se rend compte qu'il n'y arrive pas.
C'est trop tard.
C'est pour ça que ce parallèle est très intéressant.
Il y a ça dans Beowulf aussi, au début de Beowulf, le précédent roi, là.
Robert Zemeckis.
Oula, Beowulf avec.
Non, pas avec Christophe.
En motion capture. L'autre. Bref, parce que je voudrais reprendre ce que je disais. Quand Arthur se gave de bouffe et de sexe à Rome,
pareil, le rapport à la bouffe aussi, c'est ego de ça.
Son alter ego, lui, en Bretagne, est rongé par la dépression. Il mange pas.
Ouais, il mange jamais.
Il mange pas. C'est le seul personnage dans Kaamelott qui mange pas. C'est assez.
Bon, là, on nous remet tout le début de l'épisode.
Voilà, on
nous remet du discours, d'un nouveau discours.
Exactement. Et en même temps, ça fait que renforcer ce lien qui les unis tout simplement.
Complètement, oui.
Et ce destin, leurs deux destins finir par se croiser avec un point commun qui est une femme. Voilà, mais j'en dis pas plus pour le moment, on verra ça un peu plus tard.
Tu nous intrigues, Clément.
Et oui, je sais.
Voilà, on va comprendre l'utilité de la couronne aussi. On va comprendre l'utilité du coup à la trachée.
Quoi, la trachée?
Il va le faire, hein, tout quoi, se tient.
Et voilà la couronne, voilà, bim. C'est pour voiler, c'est pour pas qu'on voit.
Hop, on nous remonte le coup à tracher, oui, évidemment. Voilà. Bim, ouais, il faut qu'on.
Parce qu'on n'est pas très malin, donc faut. Bah,
on est des spectateurs un peu idiots, il faut nous remettre les choses. Il prend l'épée, hein, comme Excalibur, évidemment. Cette épée, ouais, voilà.
Non, mais c'est bien, tous ces plans indices, on en rajoute un peu, mais voilà. C'est vrai que c'est. Et là, justement, le contraste est encore plus fort parce que là, il parle de là où il a échoué. Et là où il a échoué, on voit Lucinia. Donc, Lucinia, Aconia. Et Aconia,
tu balances la fin de la saison, là.
Non, mais là, on vient de la voir.
Ah, oui. Ou alors, la priorité directe, Philippe Naon, non?
Philippe Naon, oui. Philippe Naon,
il a. Non, mais alors, garde pour ta conclusion, Clémentus.
C'est pas grave, effectivement. Nous voilà en Bretagne avec une introduction très efficace de Goustan de Carmélide qu'on adore évidemment, joué par Philippe Naon,
qui fait un monologue comme dans
qui fait un monologue exactement la caméra la caméra
représente comme un film de Gaspard Noé, il fait des monologues.
Ah d'accord, oui,
ouais, il fait pareil,
tout à fait,
en conséquence.
Mais c'est là où on l'a découvert, c'est bon, là où on l'a découvert de toute façon, dans le film Gaspard Noé. Effectivement, revoyez-les, chers amis. Ouais, cette scène est très intéressante, excusez-moi, parce qu'elle accompagne le dialogue. Là, il est en train de nous raconter voilà le deal qu'il a avec les Romains. La caméra donc s'est éloignée de lui petit à petit, il commence à panoter tout doucement. Et on va nous faire découvrir petit à petit un personnage adulé par les fans, évidemment, joué par Lionel Astier. Je vais pas survendre le truc parce que j'aurais bien voulu être raccord avec l'image, c'est dommage.
Ah bah oui.
Dans l'autre podcast, vous parliez là à ce moment-là, c'était vachement plus pratique.
Shredder et tout, c'était vachement drôle.
Dans quel autre podcast, je crois pas que
oh, un obscur podcast que les gens n'entendront jamais.
Ah voilà, il est les épaulettes de Shredder.
Voilà, la caméra passe derrière les épaules de Shredder. Et justement, alors on se dit, mais c'est qui ces épaules de Shredder? Qui est cette armure menaçante? Et le dialogue nous l'indique doucement parce que voilà, il a dit roi de Carmélide. Donc on comprend que c'est l'adoubement de Léo Dagan. On assiste plus ou moins à l'adoubement de Léo Dagan, qu'on ne voit évidemment toujours pas, évidemment, encore une fois, parce qu'il est dodo. Excusez-moi, je suis un petit peu
stressé. On comprend un peu pourquoi Léo Dagan est comme il est, parce qu'on se rend compte que
son père est horrible.
Son père est vraiment d'enfoiré.
Bah oui, ça on le savait dès le livre 1, mais effectivement, là ça nous montre bien
là,
à quel point.
C'est clair et net, quoi.
Quel point c'est un chef barbare dans
roi de Carmélide,
c'est là qu'il le dit. Voilà, c'est là qu'il le dit. J'avais un petit peu anticipé. Voilà, maintenant vous êtes roi de Carmélide. Donc, on comprend que c'est Léo Dagan.
C'est d'aller leur dérouiller le cul.
Et c'est intéressant parce que là, la musique augmente. Le rythme de la musique augmente. Là, il plante son épée. On comprend qu'on est en train de parler Léo Dagan. Les fans trépignent. On sait qu'on va voir Léo Dagan. Et là, on va le découvrir. On va le découvrir jeune pour la première fois. Léo Dagan, en contre-plongée, bien évidemment. Et les gars!
Et qui refait référence.
Et il reprend la vanne du chef romain qui était tout content de bouffer du lapin. Bah eux, ils vont bouffer du romain.
Bon, jeune, ils lui ont juste changé sa coupe de cheveux.
Oui, mais c'est 15 ans avant, on te l'a dit. Tu vois, c'était écrit. C'était 15 ans avant Kaamelott.
On n'a pas parlé de ce plan de fin sans figurant. C'est pas grave.
Ça manquait un peu de figure et de musique un peu plus.
Il y avait 4. Bah ouais, mais là, on sait.
C'est vrai qu'il y a son armée, c'est pas beaucoup.
Effectivement, mais avec de l'imagination, tu sais qu'il y a une armada de barbares derrière.
Il fait appel à l'imagination.
Ouais, c'est important.
Il fait appel à l'imagination.
C'est vrai que pour une fin d'épisode, on a aimé quelque chose un peu plus.
Non, il met Léo Dagan, c'est génial, mais c'est vrai qu'il manque du budget, c'est tout.
Effectivement,
il l'avait dit, Astier, il a atteint ses limites.
Il a atteint ses limites. Il a dit même qu'en fait, il a poussé son format, il a poussé les limites de son format au maximum. Et là, on le voit. C'est vrai que je pense que chaque thune est à l'image. Et la thune, il n'y avait peut-être pas des masses. Et du coup, bon, bah, peu de figurants. Une lumière, voilà, il a fait ce qu'il avait. On est quand même à M6, pas sur HBO. Tu m'as compris?
Bah oui, c'est vrai.
Générique fin, des choses à dire sur le générique fin?
Oh bah écoute, le régisseur général s'appelle Inti Mercanato.
Luigi Spalletti.
Ouais, ils ont embauché des Italiens, c'est quand même.
Non, mais ils ont tourné. Ils ont tourné où déjà?
Cinecittà.
Conclusion, Clémentus.
Alors, conclusion, tout à fait. Alors, nous allons passer à cette.
2009,
voilà,
tournée en 2009.
Qui conclut, forcément.
Qui conclut, c'est le principe.
Elle conclut plutôt bien.
Est-ce que peut-être tu voudrais un petit extrait de Kaamelott pour te remémorer
s'il
ta conclusion?
S'il te plaît, oui, merci, ouais.
Allez, attention, c'est parti.
J'avais jamais remarqué que vous aviez les yeux bleus, maître d'armes.
C'est sûrement parce qu'ils sont marrons.
Mais vous êtes beurré, vous aussi?
Absolument pas, j'ai bu trop 4 verres, voilà.
Bah, c'est pas pour prendre la défense de la petite, mais c'est vrai qu'il tabasse, hein, le rouquin, aujourd'hui.
Moi, je ne bois jamais. Dans ma branche, c'est une règle santé... sobriété.
Eh bien, on doit bien se marrer dans votre branche.
Mais ça nous arrive, oui.
Ah, bah, je pense bien, moi, l'air d'un sacré festif.
Vous apprendrez qu'il m'est arrivé de voir, Seigneur Léo Dagan, et occasionnellement, de me démonter la tête à pas retrouver le chemin de ma maison.
Moi, une fois. J'étais tellement raide que j'avais l'impression de me faire attaquer de tous les côtés. Je me défendais. En fait, j'étais dans un pâturage. J'ai tué 76 chèvres.
Il y a de quoi flamber, c'est sûr.
Bah, j'évoque.
Moi, une fois, j'étais saoul comme cochon, je me suis fait tatouer « J'aime le raisin de table » sur la miche droite. Essayez toujours.
Moi, une fois, j'ai pissé par la fenêtre.
Voilà, j'ai pissé par la fenêtre, c'était très drôle. Donc, conclusion.
Conclusion, alors
Clémentus.
Voilà. Alors, comme je le disais, un épisode fortement marqué par le contraste, avec des jeunes qui crèvent la dalle dans le ghetto, tandis que les riches se gavent au Sénat. Et cet épisode marque les premiers contacts d'Arthur avec la politique, dont il n'est pas encore le jouet. D'ailleurs, il commence sa quête du héros, définie par Joseph Campbell. Elle commence ici exactement par l'exploration d'un monde nouveau, le monde extraordinaire. Qui s'ouvre
devant
lui.
Qui le sortir de sa routine.
Qui le sort de sa routine et qui le mènera à son destin dramatique. En gros, Arthur commence sa quête ici.
C'est important. Exactement. Moi, ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est que c'est une sorte de Kaamelott reboot, non ? C'est une sorte de Kaamelott.
Pas du tout,
Kaamelott Next Generation. Kaamelottus, que ça pourrait être une autre série.
Avec le capitaine Picard.
Non mais ouais, en fait ça reprend les règles de Kaamelott, le ton des personnages, mais c'est un autre univers et c'est pour mieux finalement mieux pour mieux justifier l'univers original de Kaamelott.
Oui, Kaamelott. Voilà, ça nous pose les bases. Je sais pas si ça le juste.
Mais si, c'est pour mieux nous faire revenir au fur et à mesure de cette saison 6 sur le vrai Kaamelott, quoi, où Arthur va revenir en Bretagne.
D'accord, ok, ouais.
Et le seul visage familier qu'on a, enfin dès le début de l'épisode, c'est Arthur et c'est tout. Tous les autres personnages sont totalement inconnus, mis à part Léo Dagan à la fin qui revient.
Ouais, ouais.
Il a fait petit à petit d'ailleurs, tous les personnages vont revenir, tous les personnages qu'on connaît.
Ouais.
Ça c'est très cool aussi. Je voulais saluer cette prise de risque.
Saluons.
Et ça se tient finalement avec le sondage dont je parlais tout à l'heure, et cette prise de risque de faire une saison préquelle qui n'a rien à voir, qui se passe à Rome, dans un autre univers finalement, plutôt que de raconter la suite.
Pas rien à voir.
Non mais elle a pas rien à voir, bien sûr, mais c'est un peu comme le Visiteur du Futur saison 4 où ils reprennent où c'est autre chose quoi, c'est une nouvelle proposition.
Mais là ils changent.
Moi je trouve ça bien joué quoi.
Il y avait il y a plusieurs raisons pour faire ça déjà. Bon, montrer la jeunesse du personnage principal, c'est toujours intéressant. On pense ce qu'on veut de la prélogie de Star Wars. Bon bah voilà, comment Dark Vador est devenu Dark Vador. C'est intéressant. Et en plus de ça, on découvre un autre univers. Là, il fait table rase de l'univers qu'on connaissait. Et là, on a un Kaamelott dans un autre décor, dans une autre ambiance. Voilà, il y a plein de raisons qui justifient le préquel. C'est pour ça, au coup du reboot, je suis pas
sûr. Évidemment, j'exagère. Mais
oui, d'accord. Okay. Parce que moi, je trouve
c'est plus un what if quoi.
Mais non, pas du tout. Parce que moi, je trouve que justement, cette saison, en étant un préquel, nous apporte quand même énormément de réponses sur des questions qu'on pouvait se poser à la fin du livre 5. Moi, je vois cette saison un peu comme
par exemple,
comme un épisode de Lost en fait. Je trouve que t'as pas parlé de Lost.
Non mais j'ai voulu que tu en parles.
Riley Luce. Moi, ça me fait penser à un épisode de Lost où vous voyez le principe d'un épisode de Lost où les mecs sont sur l'île et par flashback se rappellent ce qu'était leur vie en dehors de l'île. Et au départ, tu te dis ah ouais bah il découle leur vie. Le mec il était riche ou le mec il était docteur ou il était star du rock tout ça. Et petit à petit, au fur et à mesure que le flashback avance, on se rend compte qu'en fait, c'était pourri leur vie. Et là, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que Arthurus est sur son île
ouais,
de Bretagne.
Ouais.
Il est roi de Bretagne, tout ça, il en chie, c'est pas facile. Voilà, donc on arrive. On arrive à la fin de la saison 5, il se passe ce qui doit se passer en fin de saison 5. Et donc, la flashback. Au départ, tu te dis ah oh, ben ouais, c'était bien, il était insouciant, il était jeune, il se tapait des gonzesses,
ouais.
C'était génial et tout. Et au fur et à mesure, tu vas comprendre que c'était pas si bien que ça, que tout ce qu'il va vivre, plein de choses qui vont le conduire à être ce qu'il est maintenant sur cette île, et ça va donner des infos et ça va te remettre en perspective
les autres saisons,
ce qui se passe sur l'île de Bretagne.
C'est comme Lost, c'est presque aussi bien que Lost.
Non mais je veux dire que c'est comme un énorme flashback.
C'est beaucoup mieux que Lost.
C'est un énorme flashback
qui aurait voilà et qui aurait une importance énorme sur le personnage et
ouais, bien sûr, évidemment.
Énormément d'infos sur le personnage d'Arthur et sur sur ce qui lui arrive en fin de saison.
Sauf que là, son parcours initiatique, son voyage du héros commence là, alors que sur Lost, les personnages ils commencent sur l'île, le voyage.
On n'est pas obligé de coller à Lost pour être une série, on est d'accord.
Ah bon, pardon, je croyais que c'est là où tu voulais en venir.
Non, mais le parallèle s'arrête là.
Ah pardon, excuse-moi.
Voilà, mais effectivement, comme je l'ai dit deux fois dans la conclusion, son parcours commence ici.
Oui, bien sûr.
Voilà, et eh bien écoute, on a qu'à enchaîner sur. Est-ce qu'il y a une rubrique
Une rubrique si t'aimes.
Alors, une petite. On peut peut-être mettre un extrait.
Un extrait en guise de jingle.
Un extrait à base de polygamie, je pense que ça
va c'est
plaire.
On est preneur.
Attention, 3, 2, 1, c'est parti, extrait.
Moi, je dis que vous devriez vous débarrasser de ce type avant qu'il ne répande ses idées ridicules dans tout le pays.
De toute façon, à force de gonfler tout le monde, un de ces quatre, on va le retrouver pendu à un arbre, il ne demandera pas d'où ça vient.
Une seule femme, quelle idée.
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie alors.
Et puis vous vous ennuieriez avec une seule femme, vous, non?
Oh putain, ouais.
Par contre, il y a une chose à laquelle on pourrait réfléchir, c'est à autoriser la polygamie pour les femmes.
Non.
Pourquoi non?
Non, attendez, mais vous rendez compte, après ça.
Voilà, et eh bien écoutez, on va passer tout de suite à la rubrique. Il y a une rubrique Kaamelott Experience. Ou si t'aimes Kaamelott, tu veux.
La Kaamelott Experience.
Tu vas aimer ça. Si t'aimes Kaamelott, tu vas aimer ça. Qu'est-ce qui était. C'était Riley, tu t'avais préparé.
C'est
Riley Lewis qui est à l'origine de cette.
Riley Lewis, alors.
C'est pas toi qui devais commencer.
Ah, il faut assumer.
Ah, mais je commence, sinon.
Ah oui, c'est vrai que dans le dernier podcast qui n'a pas existé, c'est toi qui avais commencé. Tout à fait.
Par Jupiter.
Alors, Away à tous les trois, à tous les deux.
Très énervant, c'est référence au podcast.
Qui n'a jamais existé d'ailleurs.
Qui n'a jamais existé.
Non, oui, alors, donc en gros, c'est si t'aimes Kaamelott, tu vas aimer ça. Et bien, moi, je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Aux sources de Kaamelott. Alors, c'est un documentaire que vous connaissez certainement si vous avez les DVD.
Ouais.
Parce que ça existe sur les DVD, c'est en 5 parties. Donc, en fait, c'est 5 documentaires, enfin, c'est 5 gros chapitres du documentaire. Il y a plusieurs thèmes, donc il y en a un, c'est sur par exemple les femmes, enfin les relations hommes-femmes, un autre sur la magie, magie-religion, un autre sur la guerre, tout ça. Et donc, l'idée. J'ai mis dans le mauvais sens, mais bon, commençons par le début.
C'est quoi l'idée?
Documentaire de Christophe Chabert. Hein,
ah oui.
Et l'idée, c'est de mettre en perspective ce qui est dit dans Kaamelott,
historiquement,
ce qui est dit dans les légendes arthuriennes, et la vérité
historique, sachant que l'histoire n'est jamais la vérité,
si on peut la connaître. Parce que je vous rappelle, donc les légendes arthuriennes, c'est un roman, donc c'est des légendes qui ont été écrites 800, 900 ans, 1000 ans après les faits possibles. A priori, il n'y a jamais eu de roi Arthur, peut-être.
Ça reste encore
à prouver. Hein.
Ou peut-être un mec qui a vaguement ressemblé et dont se sont inspirés les écrivains.
Je me demande si historiquement, c'est pas un vrai roi qui a existé, qui était un vrai.
Il y a un type, mais il avait juste rien à voir avec Arthur, quoi.
Crois qu'il a pas retiré l'épée dans l'enclume
et qu'il avait Merlin avec lui pour les.
Voilà,
et
qu'un chapeau pointu.
Un vieux clodo qui suivait.
Et qui combattait des dragons et tout. Non, bien sûr, il y a sûrement un type. Enfin, à la base de tout roman. Enfin, moi, ça me fait penser beaucoup aux Trois Mousquetaires ou aux Misérables. C'est-à-dire que il y a un fond historique.
D'Artagnan a vraiment existé, je crois.
Qui est là. Mais pareil, il avait juste rien à voir avec D'Artagnan de Dumas. Enfin voilà.
Un héros, quoi.
Donc c'est ça, les légendes arthuriennes. Donc déjà, faut savoir ça. Les légendes arthuriennes sont censées se dérouler au 5e siècle. Sauf qu'elles ont été rédigées en 1100 ou 1200.
C'est les premiers écrits des légendes arthuriennes.
Et donc forcément, quand tu rédiges quelque chose, tu y mets un peu de ton époque, même si tu parles du 5e siècle. Donc c'est ça qui est très intéressant avec les légendes arthuriennes, c'est que ça nous parle. Ça essaye de nous parler du 5e siècle, mais que ça nous parle aussi des siècles où ça a été écrit. Et donc forcément, quand c'est adapté à la télé, ça nous parle aussi de notre époque à nous. Et donc c'est ça qu'essaye de faire le documentaire, c'est de mélanger tout ça, d'expliquer tout ça, de dire ça c'était vrai, ça se passait comme ça au 5e siècle, c'est possible que ça se passe comme ça. Par exemple, il nous parle des armures, on voit en saison 1 surtout, puis après moins dans les autres saisons, on voit les chevaliers en armure. Et donc là, très clairement, les mecs nous disent les armures, c'est un truc du 15e, 16e siècle. Ça n'existait pas au
5e siècle.
Au 5e siècle, c'est impossible.
Ah, les chevaliers de la table ronde n'avaient pas d'armure, c'est un gros scoop que tu nous lances là.
Non, mais voilà, mais ce qui est intéressant, c'est de voir tous ces mélanges. C'est ça, moi c'est ça qui me passionne dans l'histoire, c'est sous l'historiographie, c'est que tout est une question de point de vue. Bien sûr. Légende arthurienne, comme on disait au début, c'est aussi une question de point de vue. Si t'écris une légende arthurienne en l'an 1000 ou en l'an, ou en l'an 2015, oui. Eh ben, elles vont pas être pareilles.
La version Kaamelott n'a rien à voir avec la version Kaamelott. Chrétien de Troyes
a aussi ses intérêts.
Un gros bisou d'ailleurs à Chrétien de Troyes.
Un gros bisou à Chrétien de Troyes.
Si vous écoutez.
Et voilà, et c'est là tout l'intérêt de la version de Astier, qui lui il injecte du Tolkien, il injecte du Star Wars, il injecte des choses comme ça qui bien sûr n'étaient pas présentes avant. Voilà. Mais bon, pour finir sur Aux Sources du Kaamelott, parce que là j'ai beaucoup digressé, donc ça prend des thèmes, donc je vous ai dit la guerre, la religion, les femmes, tout ça, et il va interroger des vrais historiens, mais il interroge aussi des acteurs de la série. Il y a Astier aussi qu'on voit au début et à la fin de chaque truc, il y a même des fans ou même des gens dans la rue, enfin voilà, il multiplie les points de vue, et c'est fascinant de voir... tous ces points de vue sur... par exemple, il demande aux gens, ah ben, d'après vous, à cette époque-là, ça se passait comment? Et les gens disent ce qui, eux, leur passe par la tête, les lieux communs qu'on a tous. Et derrière, il y a l'historien qui remet à niveau le truc, qui dit, bon, bah, en vrai, ça se passait comme ça. Et derrière, t'as un mec de la série qui te dit, bon, bah, on sait que ça se passait comme ça, mais nous, on a voulu faire ça parce que voilà. Enfin, voilà. Aux Sources du Kaamelott de Christophe Chabert.
C'est sur YouTube aussi, lui, je crois.
Ouais.
C'est pas que sur les DVD.
Les DVD, et c'est complètement téléchargeable sur les internets. Alors juste, ne soyez pas un peu rebuté, le premier numéro
alors, techniquement,
est techniquement là, très vrai, dégueulasse, ouais. Mais après ça s'améliore carrément, lorsque le premier il est juste imbuvable, enfin
carrément,
la caméra bouge tout le temps, il y a des perches dans le plan, le caméraman a fait zéro plan de coupe, c'est très sale,
plan
mais
de coupe
après,
important, hein.
Après ça s'améliore et ça devient un peu plus professionnel, mais voilà, mais le fond, mais même le premier qui est, je vous ai dit, techniquement très sale, reste intéressant parce que le fond est très très intéressant, donc à voir.
Eh bien c'est noté, merci Sartmanus.
Un petit extrait. J'ai envie de vous mettre un petit extrait parce que
t'as zappé des extraits, hein, c'est ça.
Je sens qu'il y a un extrait, il y a un extrait qui a l'air pas mal qui s'appelle Vieille pute, j'ai envie de le mettre.
Il est très court.
En garde, espèce de vieille pute dégarnie!
Voilà, effectivement, c'était très court. Mais c'était bien.
Oui. Moi, je voulais juste. Parce que Astier, c'est pas le premier à avoir fait des trucs moyenâgeux comiques. Drôles.
Allez, enchaîne. C'est un bide, c'est pas grave, ça arrive. Allez.
C'est pas un bide, non, vous avez ri. Oui, je voulais vous parler de quelques films ou séries. Qui reprennent un peu cette idée. Alors, il y a Sacré Graal des Monty Python,
ah bah oui,
que tout le monde a vu, bien sûr.
Évidemment.
On en parle ou on en parle pas?
Ouais.
Allez le voir, arrêtez ce podcast, éteignez-le et regardez.
Voilà,
Sacré
mais
Graal,
sérieux,
quoi.
Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire.
Bah oui, non, c'est sorti en 75. Ça reprend évidemment la légende du roi Arthur et des chevaliers, mais de façon débile.
Bah,
ouais, absurde.
Monty Python, faut.
Bah non, mais ouais, elle écoutait.
Après, ça plaît pas à tout le monde. Hein,
non,
Monty Python,
c'est spécial, mais.
C'est assez spécial.
Non, mais
c'est
celui-là est très drôle. Plus que.
Ouais, mais
c'est peut-être le plus abordable.
Le plus abordable, ouais, de tous, ouais, les Monty Python.
Même si Life of Brian est très, très cool. Ouais, avec, oui, la...
Comment tu dis?
Life of Brian.
D'accord, non, d'accord. Merci, ouais. Sartman.
C'est plus désespéré. La fin.
C'est pas le thème, mais a rien à voir aussi. Donc.
La chanson est bien. La chanson est très bien.
Donc on parle pas de la vie de Brian, on parle de Sacré Graal. Mais c'est pareil.
Non, oui, pardon. Voilà, Sacré Graal.
Voilà, donc je voulais préciser qu'il y avait un la peinture dans Sacré Graal.
Le fameux. J'ai vu des t-shirts avec le fameux la peinture qui est devenu une icône geek. Tu sais ça?
Peinture.
Non, je savais pas. Je me suis dit,
ce lapin est devenu plus connu que le film en fait.
Ouais, pas mal.
Ensuite. Je voulais vous parler de Sans peur et sans reproche de Gérard Jugnot.
Ah bah oui.
Mais
alors
que c'est,
mais attends, mais justement personne connaît ça.
Non, là, c'est,
mais ouais, non.
Il y a assez peu de gens qui connaissent.
C'est sorti en Blu-ray ou pas?
Alors bah, tu, pas, là tu nous, enfin, poses une colle, Sartmanus.
Ouais.
C'est sorti en 88 et c'est et avec Gérard Jugnot, et ça retrace les. C'est une comédie, hein, évidemment. Ça retrace les aventures du chevalier Bayard, qui est un héros
qui existe.
Pareil comme Arthur.
C'est le Arthur français.
Et, bah, pareil, c'est une comédie. C'est surtout là. Il y a toute la troupe, enfin une bonne partie de la troupe du Splendide, donc c'est l'humour à la bronzée, la Père Noël.
Est-ce qu'il y a Jean-Claude Duss?
Il y a très, non, oui, il y a, moi, oui,
il y a Michel,
oui,
Blanc,
Michel Blanc, médecin, là, un médecin incroyable.
Génial, je veux le voir.
Et c'est très, très humour noir aussi. Il y a des trucs bien, bien glauques. Et pareil, au niveau décor et au niveau budget, là il y a des tournois de chevaliers. Ils ont vraiment des décors et des costumes Moyen-Âge, quoi.
Il y a un humour sale dans ce film.
Ouais, c'est bizarre.
Ils vont beaucoup plus loin que Kaamelott. infiniment plus loin que les visiteurs. Enfin,
c'est complètement potache débile, quoi.
Ouais, ouais, c'est de très très mauvais goût. Et, c'est, et ça manque, ça, je trouve, pour le coup. Hein, ça fait longtemps.
Comme
le,
il y a vu un film aussi avec Coluche.
Mais là, ils osaient jouer un roi.
2h moins le quart avant Jésus-Christ.
Non, celui où il joue un roi.
C'est bah pas... ça c'est mais
t'es
oui,
sûr
c'est...
tu parles pas de
oui oui avec Coluche où il joue un roi mais oui
tu vois
oui oui
ah si oui d'accord oui,
je ne, prenez, il... ne prenez pas l'Alsace et la Lorraine ou un truc comme ça
ah, je sais non plus, non ouais, non j'ai... moi j'ai pas le titre c'est oui, horrible
il y
je
y
vois
deux
le
moins le quart avant Jésus-Christ
voilà, qui est à l'époque romaine
qui est pas mal aussi mais ouais moi je pensais à un autre que
Jean-Yann de Jean-Yann
tellement génial Jean-Yann
mais là à cette époque là donc ils osaient ce genre de film mais il y a des Gérard Darmon
aujourd'hui il y a Les Profs 2 on va loin dans l'impertinence
ça dénonce on va taper un peu.
Non, bon, en vrai, c'est bien ou pas alors ?
Il y a Gérard Darmon qui joue le barde.
C'est drôle.
Bon, bah,
c'est très c'est drôle.
Gérard Darmon, c'est très drôle. Il y a Roland Giraud qui joue un chef de torture. Et il y a Patrick Timsit en roi dégueulasse.
Mais je veux le voir.
Non, c'est à voir. Si vous aimez Gérard Jugnot et toute la troupe du Splendide, bien sûr.
Et l'humour gras.
Comme les rois du gag avec Thierry Amitage.
Qui est
excellent.
Ça va plus loin, je trouve d'ailleurs.
En parlant de donc alors là je voudrais lancer un débat sur Robin des Bois.
Voilà, vous connaissez Robin des Bois plus long que le dernier podcast là, qui n'a jamais existé. Hein.
Parce qu'il y a sacré Robin des Bois donc de Mel Brooks qui est assez rigolo. Qui est parodique, qui parodie le film de Kevin Costner.
Il y a le Robin des Bois de Ridley Scott qui est assez drôle, non?
Non, je crois pas. Je l'ai pas vu celui-là. Mais...
il est très drôle.
Et le Robin des Bois de Max Boublil dont on parle.
Lui, il est pas drôle du tout, je crois, Mali.
Non, oui. Donc à l'époque, on faisait sans peur et sans reproche dans les années 80. Maintenant, on fait. Romain Desbois avec Boubile.
Avec les mecs du petit journal, quoi. Aucun...
ils jouent dedans aussi.
Oui, c'est journal, n'importe putain. Quoi.
Les deux là.
Ouais. Oh, vache. Ouais. Bon, passons à des vrais bons films. Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret.
Mais oui.
Ah bah oui,
ah,
voilà.
Alors, oui, ça c'est vraiment génial. Et,
l'inévitable.
Ah, tu sais qu'ils font la suite en ce moment. Là.
Oui, bah oui, ça sort.
Vous avez vu le teaser?
Ah non, ouais, ouais. Il n'avait pas vu le teaser.
Non, parlons juste. Parlons du premier. Parlons du premier. Non, mais regarde pas les teasers,
c'est horrible.
Là, c'est pas du tout le même humour dans les Visiteurs.
On parle du 1.
On parle du meilleur.
Attention.
Là, ça joue justement sur le dialogue moyenâgeux surjoué, complètement débile et qui décalage total avec le présent. Là, c'est les mecs du passé qui vont dans le présent. C'est...
Alors que là, c'est l'inverse. C'est personne du passé qui parle avec une.
Ouais, c'est ça.
Les dialogues,
c'est l'anachronisme.
C'est l'anachronisme pur et dur. Et bon, par contre, le montage, techniquement, c'est n'importe quoi, mais c'est.
C'est une autre époque.
C'est une autre époque.
Les années 80.
C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est assez spécial. Mais t'es d'accord que ça fait partie du charme.
Ouais, ça fait partie du charme.
Les cuts comme ça.
En fait, oui, ouais,
c'est super drôle. Ça nous fait kiffer aujourd'hui, même si on trouve que c'est de mauvais. Enfin, pas de mauvais goût.
Des situations.
C'est-à-dire que le montage était au service du texte et mais jamais de l'image.
Ah non, jamais.
De la spatialisation ou quoi que ce soit.
On n'est pas dans un film.
C'était toujours au service du texte, du rythme et de l'humour et du coup au détriment
des comédiens qui sont énormes.
Voilà, au détriment de plein d'autres choses.
D'ailleurs, Christian Clavier a joué dans le livre 5. Il faisait le notaire.
Le juriste, là, ouais.
Oui, oui, exact, c'est vrai.
Et évidemment, il est très, 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 très loin de Jacouille.
Oh, il est jamais très très loin de Jacouille.
Bah, il y a des films où il est en roulis total. Quand il sait pas quoi faire, il fait.
Ouais, non, mais là, il l'est
pas.
Pas
pour
le
diriger.
Il est bien dirigé, comme Alain Chabat l'a dirigé dans Astérix. Il est. Voilà. On l'a retrouvé très bon.
Alors il y avait Philibert Capitaine Puceau, mais alors, on en parle
moi, j'ai pas vu ce pastiche parce que c'est un pastiche.
Non, on l'a pas vu, mais il y a Alexandre Astier. Non, mais il y a Alexandre Astier qui joue.
Bon, ça fait un raccord. Si t'aimes bien, tu vas aimer ça. Alors,
parlez-en dans les commentaires. Peut-être c'est bien. Donnez-nous envie de le voir.
Ouais,
vraiment c'est cool. Bon, peut-être c'est que ça.
Je connais un mec qui l'a vu. Ouais, non mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'il a dit que c'était un pastiche.
C'est un mec qui connaît un mec qui a.
Non, mais voilà, je peux pas plus loin.
Moi j'ai entendu une émission à la radio. Il disait que c'était bien.
Mais non, mais c'était même pour conclure parce que j'ai envie de zapper cette rubrique et avancer.
Ah non, mais attends, mais j'ai pas parlé de La Vipère Noire, série anglaise avec Rowan.
Non, mais je connais un mec, il l'a vu pareil. C'est bon.
c'est moi peut-être.
En tout cas, bon, bah c'est cool. Merci pour tout ça. Bah évidemment, on vous recommande vivement d'aller jeter un coup d'œil à tout ça si vous avez pas vu. Même si vous avez vu, vous revoyez Les Visiteurs. On l'a vu récemment grave. D'ailleurs, c'est bon de le voir de pas le voir pendant un moment.
Il s'est enchaîné sur le 2 après, tu te rappelles ?
Ouais, c'était une soirée très très longue. On pensait que c'était une bonne idée, et puis bon voilà. Et évidemment, ça crée grave.
Bon gag dans le 2. Bon.
Non.
On attend 3, bien sûr.
On attend 3 impatiemment. Voilà, alors à propos des choses qu'on attend, je propose d'enchaîner tout de suite sur la rubrique suivante, à savoir.
Peut-être tu veux un petit extrait.
Bah du coup.
Il y a carrément une rubrique pour.
Non, il n'y a pas de jingle, mais il y a une autre rubrique.
Un extrait, ouais.
Non mais je...
Allez, un petit extrait.
Un petit extrait.
On va... Voilà,
allez, un petit extrait.
Allez, c'est parti.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
Alors, on enchaîne sur le futur de Kaamelott. Sujet qui passionne les fans et
là,
les geeks.
Une rubrique dédiée.
Donc là, on vient de regarder un épisode qui a été donc diffusé en
2009.
En septembre 2009.
Voilà, j'étais pas loin tout à l'heure. Oui, effectivement, 2009. Ce silence que tu ressens, Sartman, s'explique. Comme les fans le savent, évidemment.
Tu m'as l'air en roue libre, Clément, tu sais.
Astier. Un petit peu. Astier préparait le Kaamelott Résistance. Là, évidemment, vous savez tous de quoi je parle. C'est la période.
Ah non, les fans de Buffy savent pas forcément aussi.
Oui, c'est vrai, pardon.
Enfin, les fans de Buffy, on les a perdus depuis longtemps, là, je pense.
Ils sont plus là.
Non, mais pourtant, c'est intéressant. Alors, l'histoire, évidemment, de Kaamelott se poursuit avec un segment qui s'appelle Kaamelott Résistance. Et le choix du format pour cette histoire a différé pendant quelques temps. Au début, il pensait à une nouvelle illustrée. D'ailleurs, on peut voir quelques illustres. Enfin, il a montré quelques illustres. Je crois que c'était au Comic-Con ou je sais plus à quelle convention. Ouais. Ça non plus, c'est pas encore acté.
À la suite de cette saison 6, il devait y avoir quelque chose.
Voilà,
Résistance.
Kaamelott Résistance. Lancelot est au pouvoir. Les chevaliers sont dispersés à travers le pays. C'est une tyrannie, clairement. D'ailleurs, la Résistance, un truc voilà qu'on peut connaître sous une occupation. Et le choix de ce format était au début une nouvelle. Enfin, plusieurs nouvelles d'ailleurs. Une nouvelle pour chaque personnage à peu près qui suivrait Bohort, qui suivrait Perceval et Caradoc, puis qui suivrait Lancelot, j'imagine, même si ça serait le grand vilain de cette saison. Mais il a également envisagé la possibilité de faire un spécial, un 90 minutes sur qui passera à la télé avant d'enchaîner sur les trois films, cette fameuse trilogie qu'on attend depuis un moment, qui ne se fait pas pour des raisons compliqué,
juridique.
Mais je vais pas, juridique sans doute, parce que je vais pas m'étaler là-dessus, parce que ça sert à rien déjà. Les films arriveront, je sais que.
Tu crois encore, ouais.
Ils arriveront. Il y a une volonté, autant de sa part que de la part de M6, de voir les projets se concrétiser, mais évidemment, c'est compliqué pour des raisons un peu obscures qu'on n'a pas, et pour le coup il fait bien de pas mettre sur Twitter c'est à cause de machin, c'est pas à cause de truc, parce que voilà, on s'en fout, c'est pas ça le problème.
Ce qu'on peut dire, ce qui ressort à peu près des interviews qu'il a donné, tout ça, c'est que il y a un conflit entre les ayants droit de la série et lui et Alexandre Astier, et donc ils sont pas d'accord sur les directions artistiques à prendre, en gros, et chacun d'eux ne veut pas lâcher sur certaines choses, et c'est pour ça que ça se fait pas. En gros, c'est ça. Est-ce que je dis de la merde ou...
Mais non, c'est pas que tu dis de la merde, c'est que pour le coup, on n'en sait pas plus.
C'est ça, oui. J'essaye de rester vague parce que, a priori, c'est ça, mais on n'en sait pas beaucoup plus. C'est ça, en fait.
Voilà, et le problème, c'est vrai que t'as les fans derrière qui trépignent, mais.
Astier qui fait des spectacles.
Astier fait des spectacles pendant ce temps. D'ailleurs, il a annoncé dans un
film, mais c'était pas Kaamelott. On l'a vu tous les trois voir.
Avec Adjani.
On l'a allé voir
voilà.
Trois.
Bref, non, mais c'est pas la question, le sujet, parce que tu parce que tu parlais de ces spectacles. De ces spectacles, je suis très fatigué.
On a vu aussi.
Qu'on a vu.
On lui donne du pognon, Astier, quand même.
Fait les films là. C'est pas vrai ça.
Ouais, mais voilà, mais cette réaction, par exemple, il en a marre.
Bah oui,
il en a marre de cette réaction.
On a lu l'article que nous envoyait Clémentus.
Bref, donc on attend ça impatiemment, mais les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent, surtout que nous, on n'y connaît rien.
Où, exactement, là.
Mais là,
on en est.
Il y a l'univers étendu qui continue.
Ouais, voilà.
À travers les BD, effectivement. Merci, ça me permet d'enchaîner sur le point suivant. Les BD. Décliné en 7 tomes qui se situent uniquement dans le tome 1. Livre 1.
Encore frustrant, c'est pas la suite.
Alors que c'est des histoires parallèles
au livre 1.
À la série, en fait.
Elles sont contemporaines du livre 1, parallèles à la série. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il.
Faire dans sa série.
Alors, déjà, évidemment, ça, c'est le postulat de départ. Évidemment, au niveau mise en scène, il peut se permettre des trucs qu'il ne peut pas faire à la télé, bien évidemment. On voit Kaamelott, déjà. On voit le château.
C'est qu'on le voit jamais.
On voit une. Une avalanche qui ensevelit tous les héros qui sont partis en mission, c'est quelque chose évidemment qu'on peut pas faire à la télé. Ah, mais elles sont géniales. Écrit par Astier, du coup, donc évidemment écrite par Astier, ça pouvait pas être autrement. Et donc du coup, tu retrouves exactement la même teneur de dialogue que t'as dans la série, et tu retournes dans la BD, donc c'est génial. Donc voilà, donc évidemment allez voir ça si t'aimes Camelot, tu vas aimer les BD.
T'as des chances.
Et voilà, est-ce qu'on laisserait pas tranquille nos auditeurs du coup, vu qu'il est ça fait 1h40 qu'on enregistre.
Ah oui,
voilà, il est peut-être le temps d'aller se coucher et
oui,
de.
Oui, tout à fait. Bah après montage, ça fera plus que 1h10, hein, je pense. Hein.
C'est possible, c'est possible.
Je vais vous couper tout ce que vous dites. Est-ce qu'on se fait pas, on se mettrait pas un petit extrait?
Ah, les petits extraits pour finir.
Avec Elise Moon pour terminer.
Ah
pour finir,
oui, le répurgateur.
Attention, c'est
le purgateur. Je sais plus comment
répurgateur.
Répurgateur.
Ah, sûr.
Tiens, répurgateur, qu'est-ce que vous faites là?
Bah, je vous cherchais.
Bonjour.
Non, ne m'adresse pas la parole, hérétique, démon!
Tu sais, moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Vous me suivez, là? Je vous attends.
Drôle.
Excellent, ce personnage. Bien, écoutez, voilà.
On a fini.
Nous avons fini. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici.
On se retrouve pour Buffy la prochaine
fois. On se retrouve pour Buffy, un podcast plus normal et sans doute mieux maîtrisé. Encore toutes mes excuses. J'ai un peu merdé
Clémentus,
dans l'exercice.
Clémentus, non, tu étais parfait dans le rôle.
Ah, c'était très bien. Excellent épisode.
Vous m'envoyez ravi. Bah, ah ouais.
On a tout dit quand même. Sur
ah ouais, les gars.
Ouais.
Bah, non, on pourrait parler pendant des heures. Voilà, moi je peux t'en parler des heures.
Il est temps de conclure.
Mais là, il est temps de conclure.
Voilà. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes.
Eh bien, écoutez, j'allais le dire, pensez à nous mettre 5 étoiles sur iTunes parce que c'est quand même super important. Voilà.
Et des petits commentaires, on a envie de savoir ce que les gens pensent du podcast. Donc, des petits commentaires, ça ne fait
de
pas.
Camelot. Et le prochain hors-série aussi, peut-être. Votre avis sur le prochain.
C'est à toi de bosser là, Rayleigh.
On va faire Angel, je pense, bientôt.
Ah.
Ça a été évoqué 2-3 fois, ouais.
Alors, est-ce que j'ai un générique de fin?
Ah bah on va musiques.
On va savoir tout de suite.
Je te vois les musiques.
Est-ce que t'as un générique de fin?
Bah, lui-même
se pose la question, t'as vu ça.
Je vais mettre un générique de fin qui est le même que le générique début. Allez, gros bisous. A plus.
Salut.
Tchuss. Ciao.
Bisous.
They got my mustard.
They got my mustard.